Émission En Jazz sur les ondes de Boulevard 102.1. Votre émission du midi, on décortique l'actualité pour vous, on vous tient au courant des grandes nouvelles. On analyse la politique avec nos excellents chroniqueurs et collaborateurs. D'ailleurs, le caucus avec Antonine Iaccarini qui va suivre dans quelques instants. On va également avoir Rémi Villemur tout à l'heure aux alentours de 13h10. Pour nous joindre, vous le savez, le numéro par texto 418-971-1021. Intéressez-vous avec nous, on aime toujours ça. J'aime lire des textos, j'aime répondre à vos textos, donc n'hésitez jamais. BLVD.fm, ça inclut la web radio et c'est également les meilleurs moments de l'émission qui se retrouvent à cet endroit. Chronique de Lambert Drainville hier où il a pété une coche sur le troisième lien. C'est disponible sur BLVD.fm. Lambert Drainville qui va être l'invité de Marceau le soir, Pascal CV ce soir, c'est bien ça, hein?
Exactement. Alors, on va jaser politique, puis surtout d'enjeux très actuels.
Oui, et d'enjeux familiaux aussi, parce que quand même chroniqueur d'actualité politique, puis son père est dans la course à chefferie à CAQ, puis il est en train de mettre le désordre dans cette course-là. Également l'application Boulevard 102.1, App Store, Google Play Store, téléchargez ça, vous pouvez nous écouter partout où vous allez. Twitch.tv/BLVD/FM, c'est pour venir voir nos belles faces en studio. Vous pouvez interagir également sur le Twitch et abonnez-vous à notre page YouTube. Les amis, vous pouvez retrouver de l'excellent contenu, dont notamment les podcasts hors série, le podcast que j'ai enregistré avec mon cousin Eric sur la prévention du suicide s'y retrouve depuis mardi. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi, là, je suis encore en train de lutter contre ce virus qui prend d'assaut une coupe de corps, mais on va tous en sortir. Hein?
Ah non, ça va super, super bien. Bel entraînement hier, belle pratique avec mes midgets. J'ai bien aimé ma soirée. Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va très bien.
Good. Anto qui est avec nous aujourd'hui à distance via la plateforme Zoom. Avant de passer au caucus, justement, Pascal CV, est-ce que tu peux nous résumer quelques nouvelles de l'actualité, mettons les trois plus importantes? Il y a beaucoup de choses de judiciaire, si
je m'abuse. Il y a un ado de Québec qui est accusé de terrorisme par la GRC. C'est un jeune homme qui aurait fait la promotion d'un groupe néo-nazi qui était inscrit par le gouvernement canadien sur sa liste des entités terroristes. Alors oui, très judiciaire. Sinon, Mark Carney a pris la parole. Véhicule électrique, bien, Ottawa veut ramener les subventions jusqu'à 5 000 $. Il y a quand même des particularités là-dedans. On en jasera un peu plus tard. Les travailleurs de la santé seront tous admis où? Bien, dans le programme de l'expérience québécoise, c'est ce que promet Jean-François Roberge. Alors, il s'engage à admettre 6 300 employés du réseau de la santé visés par l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Ça aussi, c'est dans les nouvelles. Et je vais faire un clin d'œil à ce qui se passe du côté de Toronto. Complot fusillade. En fait, c'est un des plus gros complots qu'on a vu du côté de la police de Toronto, et ce, depuis toujours. Trafic de stupéfiants. Il y avait un genre de stratagème parmi les policiers de la police de Toronto. C'est 7 policiers et l'ex-agent de paix à la retraite qui ont été arrêtés à Toronto aujourd'hui.
Énorme comme arrestation à Toronto. On va continuer à suivre ça pour vous. Évidemment, Boulevard 102.1.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Pascal Paradis va être avec nous aux alentours de 12h30 via téléphone. On veut parler du troisième lien avec le PQ. Qu'est-ce qu'il en pense de cette crise-là? Mais avant de parler de ceci, on va rejoindre Antonine Iaccarini dans le caucus. Anto, écoute bien ça. Le PLQ se peut plus, on a chanté nananana et goodbye à la gang à Pablo Rodriguez. C'est fini, ils sont à la porte, tout le monde, on repart à neuf.
On repart à neuf. J'ai pas entendu ta clip en passant.
Ah non, tu l'as pas entendu, c'est de valeur, c'était la chanson nananana. Nanana, goodbye.
Oui, on repart à neuf. Est-ce que le Parti libéral peut vraiment mettre tout ça derrière lui aussi rapidement, à ton avis?
Je ne penserais pas. Moi, je pense que le Parti libéral, le mot « corruption » est revenu leur coller à la peau. Et même si Charles Milliard va être un neuf en politique, ça va être très difficile pour lui de détacher cette étiquette-là pour la prochaine élection du mois d'octobre 2026.
Moi, je vois vraiment trois défis pour Charles Milliard. Là. Le premier, ben, c'est de reconstruire le lien de confiance. Puis c'est ce que tu viens de dire, c'est que l'étiquette de corruption, quand tu as une enquête de l'UPAC qui te pend au bout du nez, Même si M. Milliard arrive effectivement en étant un peu neuf, avec pas trop de casseroles après ses chevilles à lui, le parti, lui, traîne des casseroles, évidemment, puis on attend les conclusions de plusieurs enquêtes, là, puis notamment de l'enquête interne. Hein. Vous vous rappelez que le Parti libéral du Québec a déclenché une enquête interne qui l'a confiée au juge Fournier. On attend les conclusions. Ils sont censés avoir reçu ce rapport-là à la fin du mois de janvier. Donc,
on avait parlé du 31 janvier. Là, on est rendu le 4 février. Il ne faudrait pas attendre au 18 mars, là.
En tout cas, si j'étais eux, je me dépêcherais peut-être d'évacuer tout ça, mais ils seront pas au bout de leur peine pour autant, compte tenu qu'il y a aussi le directeur général des élections, l'UPAC et la commissaire à l'éthique qui s'intéressent à leur cas. Donc ça, c'est le premier défi de M. Milliard. Le deuxième défi de M. Milliard, c'est d'exister, parce que la course à la chefferie de la CAQ s'abrasse. On va en parler dans un petit instant, parce que ça aussi, c'est très croustillant. Il se passe plein de choses, on mange du popcorn. Mais pendant ce temps-là, quand tu es un nouveau chef de parti dans une année électorale, faut quand même que tu puisses avoir un peu d'oxygène pour exister. Pas facile pour M. Milliard d'exister en ce moment. Bon, là, tu vas me dire, il n'est pas encore chef officiellement. Je veux bien, mais le temps presse. Le PLQ n'avait pas prévu avoir une course à la chefferie cette année.
Attends une minute, Antonine. J'ai vu la dernière publication de Mario Roy qui l'a dit que c'était pas terminé avant le 13 février. Il y a eu 5 personnes qui ont fait le pouce en l'air puis un commentaire pour lui dire « lâche pas mon Mario ». Donc, ça va bien. On avance.
Il y a un momentum, je pense. Mais c'est terrible. Imaginez pour un parti avoir quelqu'un comme ça. T'sais, ils lui ont dit très clairement à M. Roy qu'il ne voulait pas l'avoir comme candidat. Là. Puis je pense que c'est de l'acharnement. Le troisième défi de M. Milliard, ben, c'est de refaire l'unité au sein de son parti. Parce que ça continue aussi de brasser entre Geneviève Hinze et Marois Risky. La cause est maintenant judiciarisée. Hier, vous en aviez discuté, là, ça s'envoie des versions des faits d'un côté et de l'autre. Mais la décision de réintégrer Marois Risky, c'est pas évident. Et à voir comment ça s'est passé avec la directrice de cabinet qui avait été choisie par le chef précédent. Je suis pas certaine, moi, que le fruit est mûr pour réintégrer aussi rapidement que ça Marois Risky. Et si Charles Millard refuse, Marois Risky est quand même quelqu'un d'extrêmement apprécié du grand public. C'est une de leurs députées les plus populaires. Donc, c'est un peu deux options pas très bonnes qui se présentent devant lui dans ce cas-ci.
On écoute ce que Charles Milliard avait dit à cet effet-là le 28 janvier dernier sur nos ondes, ici même à Boulevard 102.1, dans l'émission On en jase.
Alors, j'ai mentionné que j'allais la rencontrer prochainement. Pour moi, je me cache pas de ça. Ça fait partie de ma job de candidat.
Parce qu'elle vous a quand même aidé là, à devenir chef du PLQ. Là, avec
mais
elle
quitte en même temps.
C'est bon, une aide très indirecte. Mais tout ça pour dire que je vais avoir une discussion avec elle. C'est une parlementaire redoutable. Puis Greg Kelly, qui est son mari, fait partie de mon équipe.
Alors, il a réintégré le caucus hier.
On convient que c'est une situation qui est spéciale. On ne fait pas semblant. Mais je vais rapidement prendre une décision. Mais avec le caucus, moi, je suis un joueur d'équipe. La politique, c'est un sport d'équipe, même s'il y a des statistiques individuelles. Donc, rapidement, je reviendrai vous voir, si vous voulez, pour vous faire part de ma décision, mais je ne prendrai pas une décision avant d'être chef.
Donc, on attend Charles Milliard qui va revenir nous voir avec sa décision. Puis, Anto, tu as justement abordé le sujet que je voulais aborder avec toi, la popularité de Marois Risky. Et comment c'est important dans une année électorale de démontrer de l'unité. Puis là, ça nous amènera à parler de la CAQ après. Mais pour le Parti libéral, il n'y a comme pas le choix de trouver la voie de passage pour qu'elle revienne au caucus puis que les libéraux essayent d'aller par en avant. Mais là, je pense à un Marc Tanguay, un Moncef Déragé, un André Fortin, qu'eux autres n'ont pas fléchi, sont restés droits puis enfrontés à tempête. Ça ne leur tente pas de voir Marois Risky assis à côté d'eux autres.
Ouais, puis tout ça se rapporte à comme qu'est-ce que vous avez compris de la crise qui s'est passée au Parti libéral, parce que on peut avoir différentes interprétations, étant donné que Mme Risky a choisi comme méthode de travail de mettre dehors la directrice de cabinet sans parler avec son chef, sans s'attacher avec ses collègues au préalable. Donc, est-ce qu'elle a eu raison ou non? Il y a des gens qui pensent que oui, il y a des gens qui pensent que non. Maintenant, la cause est encore devant les tribunaux. Il va y avoir des rebondissements. Les collègues, je pense qu'ils sont capables d'être pragmatiques et de se dire « c'est une joueuse importante du caucus libéral », mais à partir de quel moment elle devient aussi une distraction continuelle? Est-ce que, comme députée indépendante, finalement, ce ne serait pas mieux, par exemple, de faire des projets ensemble ou des alliances ponctuelles plutôt que de la réintégrer complètement? Je me pose la question.
Sachant qu'elle va quitter, ça serait un bon air d'aller de la conserver puis de la garder à l'interne, vu justement cette opinion favorable du public?
Ben, c'est ce qu'on dit, c'est que il faut peser les pour et les contre. C'est une bonne joueuse, elle est populaire, tu veux montrer de l'unité, mais en même temps, si tu en voulant montrer de l'unité, finalement, tu crées des conflits à l'interne. Finalement, est-ce qu'à plus long terme, c'est vraiment l'idéal pour le Parti libéral? Il n'y en a pas de solution idéale, c'est ça la réponse. Et je pense que si Mme Risky avait joué ses cartes différemment, c'est-à-dire de... Peut-être, effectivement, que ça aurait terminé pour un congédiement pour Mme Hintz. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la vérité sur ce dossier-là. Mais si elle avait impliqué son chef dans sa décision, puis si ça avait été quelque chose qui avait été fait ensemble, si les lignes directrices là, qui étaient la pomme de discorde entre les deux femmes avaient été discutées aussi avec le chef, est-ce que le parti en serait vraiment là? La question se pose.
On est en plein caucus avec Antonine Iaccarini. C'est un segment de l'émission On en jase du lundi au jeudi. De midi 5 environ à midi 25, midi 30. Anto, passons à l'autre crise d'unité, celle de la CAQ. Une course à la chefferie qui est spectaculaire. Je l'aime, mon Bernard.
Il te divertit.
Oui, c'est ça. Il me divertit vraiment. Et on va réentendre, on l'a écouté hier avec Victor Henriquez, mais on va réentendre ce qu'il a dit hier à propos du leadership de Christine Fréchette, l'autre candidate à la chefferie de la CAQ.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, Mme Fréchette soit incapable de prendre une position en faveur du projet. C'est pas comme si le troisième lien était une surprise dans cette campagne. Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du projet, nuisent à la crédibilité du gouvernement et nuisent à la crédibilité du parti. Comme premier ministre, il faut savoir prendre des décisions. Parce que, comme le veut l'expression, tout ce qui traîne se salit. Un chef de gouvernement doit savoir décider et être capable d'assumer ses décisions. C'est une question de leadership. Je dirais même, dans ce cas-ci, c'est un test de leadership. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoient pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. L'indécision est la pire des décisions.
Antonine, l'indécision est la pire des décisions. Bernard Drainville qui a remis en cause le leadership de Christine Fréchette dans un scrum improvisé devant les journalistes. T'en penses quoi de tout ça? Parce que là, c'est divisé à la CAQ. Il y a des gens qui ont trouvé ça non élégant, notamment Gilles Bélanger, ministre au niveau de la cybersécurité, qui a appuyé Christine Fréchette beaucoup trop tôt, mais qui l'a appuyé quand même. Louis Provençal, député de Beauce-Sud, qui, lui, est dans l'équipe Bernard Drainville, mais qui est du même avis que Gilles Bélanger. Alors que Samuel Poulain, un jeune député et ministre au niveau de la CAQ, qui est dans le camp de Bernard Drainville, a dit « Non, c'était bien correct. » Elle doit prendre une décision.
Bon, là, tout le monde défend son poulain là, dans cette histoire-là. Nous, on ne défend personne. Okay? Fait que je pense qu'on est capable objectivement d'analyser la situation et de se dire que, sur le fond des choses, M. Drainville a raison. Dans le sens que c'est vrai que ce n'est pas nouveau comme dossier et c'est vrai que ce n'est pas une position très confortable pour personne d'avoir une candidate à la chefferie qui dit « je suis en train de réfléchir » parce que ça nous rappelle les tergiversations aussi à l'époque de M. Legault. Et on le sait que ça fait partie des choses qui ont coulé la CAQ d'avoir changé d'idée plusieurs fois. La position de M. Drainville, elle est claire, mais c'est sûr, tu es député de Québec, il a toujours été pro-troisième lien, il est très cohérent dans tout ça. Alors que pour Mme Fréchette, on se doute qu'elle est moins chaude à l'idée, on va dire ça comme ça, puis c'est une députée de Montréal aussi. Donc, son silence laisse entendre qu'elle n'est pas nécessairement là, très favorable au projet. Sur le fond des choses, c'est tel que tel. Mais maintenant, sur la forme, là, en parlant d'unité, on parlait d'unité avec le Parti libéral il y a un instant, la CAQ aussi va devoir refaire l'unité en année électorale. Donc, M. Drainville, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de brasser la cage puisque la tendance est plus favorable à Christine Fréchette. Mais en brassant la cage, il brasse son parti aussi et il rend plus difficile l'unité là, par la suite. Parce qu'on est dans des attaques. T'sais, il n'est pas allé de main morte. Là. Il a dit à peu près 15 phrases pour dire que Mme Fréchette, en gros, n'avait pas de leadership.
Ben écoute, c'est un extrait d'une minute 8 secondes qui aurait pu se résumer en « Christine Fréchette manque de leadership, elle devrait appuyer le projet du troisième lien.
C'est pas une petite phrase échappée là, à la fin d'un point de presse. Là. C'était une attaque, là. Il martelait son message. Donc ça, c'est un choix qu'il fait parce que lui, il considère que s'il ne brasse pas la cage, il n'y a pas de chance de l'emporter. Puis c'est pour ça aussi qu'il demande un troisième débat dans cette course à la direction, ce qui n'est pas à l'avantage du meneur, généralement. Hein. C'est les challengers qui veulent avoir plus de débats. Mais en même temps, il faut quand même garder en tête pour M. Drainville qu'il va falloir partir en élection au mois d'octobre. Là. Donc, faire attention pour ne pas tout scraper non plus le véhicule ou le chef, le prochain chef. Parce que c'est ça aussi, c'est que si M. Drainville joue le tout pour le tout, mais qu'il magane Mme Fréchette et qu'elle devient chef, ben les oppositions vont évidemment exploiter tout ça et jouer là-dessus, exactement.
J'entendais des commentatrices de la politique également hier, mais qui ont fait de la politique, donc qui étaient ministres ou autres par le passé, dire qu'ils voyaient ça un petit peu genré, qu'ils trouvaient que c'était une gang de bonhommes qui s'attaquaient à Mme Fréchette en diminuant le fait qu'elle prenait du temps pour réfléchir à une grande question, à un grand enjeu. Est-ce que tu le vois de la même manière, toi, Antonine?
J'y vois une dimension un peu genrée, oui. Par contre, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à ce stade-ci, là, les gens devraient avoir une opinion quand même sur le troisième lien. Mais je sors du dossier du troisième lien pour dire que c'est facile de coller à une femme l'étiquette de « elle n'a pas de leadership, elle est indécise, elle n'est pas solide ». Parce que, évidemment, si on regarde les stéréotypes là, dans la vie, là, des messieurs confiants, là, vous savez, là, je fais souvent des blagues avec la confiance infinie de l'homme blanc. Là. C'est facile de regarder un peu le style un peu différent de certaines femmes élues qui vont parfois être un petit peu plus dans la consultation, un peu moins dans la précipitation. Mais je trouve que dans le cas du troisième lien, honnêtement, la décision me tanne un petit peu, me tape un peu sur le chou, étant donné que, je veux dire, on en parle depuis des années. Avant de se lancer dans une course à la direction, peut-être avoir une position.
Est-ce qu'on est dans les cas typiques, parce que tu nous avais déjà parlé ici, on en jase, de deux, je pense que c'est deux animaux que tu donnais en termes de personnalité politique. Je me souviens pas, mais quelqu'un qui prenait un petit peu plus de temps pour se positionner, puis quelqu'un qui évaluait pas tous les risques, mais qui allait de l'avant.
Ah oui! Alors, ça nous vient de Jean-François Lisée, cette analogie. Donc, c'est les colombes et les faucons. Et moi, je me considère comme... En fait, il m'avait étiqueté comme étant une colombe qui est très prudente, qui ne veut pas faire de vagues, alors que les faucons, ils foncent la tête baissée puis ils attaquent. Bien, effectivement, dans la course à la direction de la CAQ, Bernard Drainville a décidé d'être un faucon, visiblement, et d'être plus à l'attaque. Mais c'est sa seule chance, parce que la semaine passée, on les a vus, les sondages. Il y en a eu d'autres en début de cette semaine, qui démontre que Mme Fréchette a une certaine avance. Donc, il faut qu'il change la conversation s'il veut réussir à se démarquer. Et il connaît tous les trucs dans le livre. C'est un politicien qui est très expérimenté et qui est très intelligent, là, M. Drainville.
Alors, pourquoi ça deviendrait un débat genré? Parce que je te l'avoue, je ne suis pas d'accord avec toi pour tout. Christine Fréchette, elle se présente pour être première ministre du Québec. Fait qu'elle a besoin de leadership et a besoin de savoir affronter la tempête. Quand
t'es
première ministre, tu sais, François Legault n'a mangé ses bas dans les trois dernières années. Je n'ai pas entendu aucun chroniqueur dire « Ah, pauvre François Legault, c'est un homme, on l'attaque parce qu'il est un homme. » Donc, pourquoi on attaquerait Christine Fréchette parce que c'est une femme?
Je pense pas que les gens l'attaquent parce que c'est une femme, mais je pense que c'est un terreau particulièrement fertile d'essayer de mettre une étiquette de quelqu'un qui n'a pas de leadership sur une femme, parce que le leadership, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Puis encore une fois, je répète, sur le fond, sur le troisième lien, je suis en désaccord avec la position de Mme Fréchette. Par contre, c'est vrai que c'est un terreau fertile, parce que dans la tête, un peu dans nos croyances qui sont très ancrées, du leadership, c'est parler fort, c'est aller vite, c'est être sûr de son affaire, puis c'est... Moi, je le sais. Alors que du leadership, si je pense à une Véronique Yvon, par exemple, députée du PQ, qui a fait atterrir toutes sortes de projets, pas de manière précipitée. Puis c'est vrai que c'était long. Puis des fois, les gens, ils essayaient de lui mettre l'étiquette d'indécise à Mme Yvon. C'est bien, il faut qu'elle consulte tout le monde avant de faire quelque chose. Mais l'aide médicale à mourir, là, je m'excuse, mais c'est quand même un succès. Et d'avoir réussi à passer ça sans opposition, ça a pris plusieurs années. C'est aussi une forme de leadership. Donc, moi, je pense pas que les gens attaquent Mme Fréchette parce que c'est une femme. Mais je pense que ça fonctionne particulièrement bien, ce genre d'attaque, où on dit, voyez, ça, c'est pas du leadership. il y a plusieurs formes de leadership possibles en politique.
Oui, je suis d'accord pour toi, ça serait une critique générale, ça serait genré, mais dans le cas du troisième lien, écoute, ça fait 10 ans, on peut-tu prendre une décision, oui ou non, merci, bonsoir.
On est d'accord.
T'sais, affirmons-nous, là, si elle est contre, si elle est pour, elle est pour, mais qu'elle fasse la campagne avec. Hey, je veux continuer sur Bernard Drainville, parce que moi, tu sais, Antonine, je suis une petite bébite spéciale, j'aime ça écouter les points de presse à l'Assemblée nationale le matin.
Ben oui,
je termine l'émission à 10h, il y a eu des points de presse entre 8h et 10h, puis je m'en vais réécouter ça. Je tombe souvent sur des petits bijoux et je suis tombé sur ce bijou-là de Pascal Bérubé. On écoute.
Est-ce qu'il y a encore de la place pour M. Drainville au PQ?
Il y a de la place pour les indépendantistes au Parti québécois.
Ouvrir, vous avez déjà dit le contraire ici, en disant qu'il n'y a pas de place pour les caquistes au Parti québécois.
Ils ne sont pas indépendantistes, les caquistes.
Il y en a.
Qui?
Non, je ne veux pas vous faire du name dropping. Là, vous les connaissez, là, vous avez plein de vos anciens collègues qui sont traversés pour les travailler.
Nous,
pour
la on cible l'électeur. D'accord. Ouais. Alors, si vous êtes indépendantiste, si vous trouvez qu'on travaille bien, si vous trouvez qu'on a une belle équipe, si vous aimez notre chef, il y a plein de raisons de nous rejoindre.
Hey, la porte n'est pas fermée pour Bernard Drainville par Pascal Bérubé. Mmh. Et je retiens la fin. Nous, on cible l'électorat. Alors, si vous aimez notre chef, hey, à Lévis, Bernard Drainville, il est populaire à peu près. Il arrête pas de le dire en entrevue, Pascal. N'oubliez pas les gens de Lévis. Comment ça, la porte s'est pas fermée?
En fait, j'ai vraiment une interprétation complètement contraire à la tienne, Jeff. Moi, quand Pascal Bérubé dit qu'il y a de la place pour les indépendantistes, il dit à demi-mot que Bernard Drainville n'est plus indépendantiste. Et la porte, je vous le dis, là, elle est fermée à double tour. Pour Bernard Drainville. Il a eu, dans les derniers mois, dernières semaines, des propos très durs contre le référendum. Il a dit « ça prend pas de référendum, c'est terrible », puis il est passé à autre chose. Puis quand les gens disaient « alors vous êtes devenu fédéraliste », il se défendait pas de ça. Donc, je peux vous dire que c'est pas ce que M. Bérubé voulait dire. Par contre, c'est vraiment important ce qu'il a dit aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y en a des indépendantistes à la CAQ, autant dans l'électorat que dans les employés. Mm-hmm. Moi, je suis indépendantiste. C'est pas ma priorité de tous les instants, mais je pense que le Québec devrait être un pays. Je vais travailler à la CAQ. Maintenant, je comprends que le PQ ne veut pas nécessairement prendre des anciens staffers. Moi, je n'ai pas l'intention de revenir en politique, fait que je ne parle plus de moi, là, je parle en général. Ce qu'il dit, c'est que si vous avez travaillé à la CAQ, vous ne pouvez plus revenir au PQ. Par contre, si vous avez voté pour la CAQ, vous êtes un électeur qui avait voté pour la CAQ, bien sûr qu'on veut votre vote, les amis. Mais le PQ ne prendra pas de transfuge qui arrive de la CAQ, qui considère que les gens qui sont allés à la CAQ sont un peu des opportunistes et ils ne veulent pas avoir ce genre de transfuge-là, alors qu'ils ont ouvert la porte à Vincent Marissal. Mais écoute, ça marche à gauche, mais ça marche pas de l'autre côté. Mais ils ont un enjeu, le PQ, parce que... Souvent, on a l'impression qu'il y a des tests de pureté. Hein? As-tu le droit d'être péquiste? Es-tu pur? Est-ce que tu coches toutes les cases? Alors que si tu veux réussir à monter, ils sont à 34% dans les sondages.
Oui, ça dépend du sondage, là, entre 33 à 36. Là.
Mais si tu veux faire un pays, tu as besoin de plus que 36%. Ouais, tu as besoin de 50% plus qu'un.
Puis là, ce matin, le sondage somme parmi les gens que leur priorité est l'indépendance, 10% des Québécois. Pas fort, là.
Ben, puis je suis contente que les sondeurs aient commencé à faire des nuances, parce que c'est pas juste oui-non, c'est quoi ta priorité dans la vie aussi, puis ton niveau d'urgence de faire la souveraineté, ça aussi c'est important, et ça en dit beaucoup sur les intentions des électeurs. Mais le point, c'est que on a l'impression des fois qu'au PQ, souvent les militants aussi sont très agressifs, ils attaquent beaucoup sur les médias sociaux, ils traitent des fois les gens de fédéralistes, de fédérastes, de colonisés, de... T'sais, à un moment donné, il faut aussi qu'ils attirent le monde, qu'ils donnent le goût aux gens de venir auprès de leur projet. Puis un pays, ça se fait pas à 3-4 personnes qui ont raison dans le salon, là. Pour
Antonine,
rassembler.
T'es-tu pour la laïcité?
Oui.
T'es-tu pour le fait qu'on va serrer les quotas d'immigration?
Oui.
T'es-tu nationaliste?
Oui.
Parfait. Tu peux être au PQ.
Oui, merci Jeff, mais je pense qu'il voit les choses autrement des fois de l'autre côté. Mais t'as tellement raison, mais c'est un défi de rassembler pour le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon.
On termine avec le continuant de François Legault. On l'écoute justement.
Mais c'est ça ma grande fierté, de vous avoir convaincu un par un d'embarquer dans cette belle aventure, faire avancer le Québec. Donc, pas de pause. Pas de prorogation. On fait avancer le Québec. Donc, on sort les journalistes, puis on se met... On se met au travail. Merci.
Au travail, la CAQ. Mais là, au travail, pas de premier ministre, une course à la chefferie. Juste hier, on a vu qu'on n'était pas au travail parce que Jonathan Julien a dit « Ben, vous savez quoi? Je vais attendre après le 12 avril avant de parler du troisième lien. » Mais là, il y a un budget qui est censé être déposé fin mars. On ne peut pas déposer un budget quand le premier ministre part deux semaines après.
C'est un peu bizarre, honnêtement. T'sais, oui, sur papier, il peut déposer un budget. Il est encore premier ministre. Mais dans les faits, si tu étais candidat à la chefferie, là, toi, là, t'aimerais-tu ça que le gars d'avant, l'ancien propriétaire, fasse un budget puis il me note tout ce que tu peux faire pour les 6 prochains mois? Non, mais
il les a pas consultés?
Ben, il peut les consulter, mais le problème, c'est qu'il pense pas pareil sur tout. Bernard Drinville et Christine Fréchette, il va pencher pour qui? Il va arbitrer comment? Donc, ça pose toutes sortes de questions. T'sais, honnêtement, je comprends un peu M. Legault et M. Girard parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression qu'il n'y a plus de gouvernement au Québec. Okay? Puis je comprends cette préoccupation-là. Les agences de notation nous surveillent. On comprend tout ça. Mais c'est trop bizarre. Les arbitrages qu'il y a à faire font en sorte que non seulement au niveau stratégique, ce n'est pas une bonne idée de menotter le prochain chef, mais en plus, il risque d'avoir des situations qui découlent de tout ça. Les journalistes et les oppositions vont dire « Ah, M. Legault a penché du côté de M. Drinville. Ah, M. Legault, là-dessus, a penché du côté de Mme Fréchette. » Et les oppositions, ça donne déjà à cœur joie pour accentuer les divisions qui existent déjà. Fait que là, il semble qu'il y a quand même une réflexion en ce moment. On ne ferme pas complètement la porte à reporter le budget après la course à la chefferie. Il y a un autre élément que je voulais vous soumettre, c'est que je pense que M. Girard veut battre un record. Parce que je suis allée voir les ministres des Finances, disons, de l'histoire depuis les années 60.
Ouais. Ah, ça, j'adore quand t'arrives avec des affaires comme ça. Continue.
Bon, je fais mon palourde. Monsieur Parizeau, Jacques Parizeau, a été ministre des Finances de 1976 à 1984. Il a complété ses 8 années comme ministre des Finances. Monsieur Girard, s'il réussit à se rendre jusqu'à octobre prochain, va lui aussi atteindre le 8 années comme ministre des Finances. Donc, moi, je pense qu'il veut battre un record, M. Girard.
Éric Girard, le recordman aux finances du Québec où on va avoir enregistré le plus gros déficit de l'histoire. Ah non, pas le plus gros, les deux plus gros où on va avoir été décoté. Mais il va être dans le livre d'histoire. C'est-tu pas beau quand les gens se regardent dans le miroir et s'aiment?
Écoute, hein, quand on regarde juste la longévité, ça peut être impressionnant. Par contre, sur les déficits, évidemment, je pourrais argumenter avec toi pour justifier certains pans de tout ça, mais tout ça pour dire que des ministres des Finances qui ont duré pendant aussi longtemps, qui ont déposé 8 budgets, il n'y en a pas eu des tonnes. La longévité moyenne d'un ministre des Finances, là, c'est entre 2 et 4 ans. Donc, quand même, c'est notable. Puis là, évidemment, comme tous les politiciens, là, quand ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont un peu usés, on les aime pas beaucoup. Puis les gens sont un petit peu tannés, je pense, de justement cet establishment caquiste dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais moi, je me demande, puis je vous pose la question, qu'est-ce qui sera retenu? Toi, Jeff, tu penses que ce qu'on va retenir d'Éric Girard, c'est les déficits?
Ben oui, les déficits, la décote.
La décote, il y en a eu à d'autres reprises aussi 418, dans l'histoire.
418-971-1021, qu'est-ce que vous allez retenir du passage d'Éric Girard comme ministre des Finances? Je veux vous lire.
Le hockey, les Kings.
Ah, les Kings! C'est un bon point, ça. Les
ça
Kings.
Va
ah, le fait qu'elle allait à New York rencontrer Gary Bettman.
Oui, qui a été ministre des Nordiques.
C'est vrai, aussi. Il a été ministre des Nordiques. Il n'a pas juste été ministre des Finances. Ah oui, ouais, qu'est-ce que vous retenez? 418-971-1021, la décote, les déficits, les Kings, Gary
T'as
Bettman.
Rien de positif à dire. Jeff.
Son appui à Christine Fréchette.
Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a rien de positif à dire sur Éric Girard. Puis ça fait 8 ans qu'il est là. C'est un signe que la CAQ a passé à côté de plusieurs dossiers.
Nomme-moi, attends, là, avant qu'on se raccroche, là, je veux que tu me nommes une bonne affaire d'un autre ministre des Finances.
Une bonne affaire d'un autre ministre des Finances. Hey, c'est vrai, c'est une bonne question. On chiale toujours après les autres, finalement.
C'est une job un peu ingrate, moi, je pense, en bout de ligne. Là. On ne retient pas des affaires bien ben positives des ministres des Finances.
Merci de m'en remettre à jour. Ah, c'est ça. Regarde, pratiquement en récession et 7 millions pour les Kings qui ressort présentement en majorité.
Bon.
Par texto, continue de nous écrire au 418-971-1021. Antonin Niaquereni, c'est toujours un bonheur de discuter, de débattre avec toi sur les ondes de Boulevard 102.1.
Plaisir partagé.
Yes, on se voit lundi, donc bon long week-end.
À lundi.
Salut. Le midi. Midi, c'est toujours un show qui vous avez et qui passe très, très, très rapidement et où on a les meilleures entrevues et les meilleurs chroniqueurs. Là, j'ai accroché le mauvais bouton. Je voulais accrocher le téléphone. J'ai accroché le bouton, un autre bouton de console. Excusez-moi pour cette petite transition déficiente. Mais tout ça pour dire, Pascal, qu'on est au bout du fil. Pascal Paradis, député de Jean Talon au niveau du Parti québécois. Le troisième lien, ça fait jaser depuis hier avec la sortie de Bernard Drainville, François Legault, Christine Fréchette. Alors voilà pourquoi on va aller rejoindre Pascal Paradis au bout du fil. Monsieur Paradis, merci pour votre présence aujourd'hui.
Ben merci de m'accueillir sur vos ondes. Salut à tout le monde.
Ça fait plaisir. Monsieur Paradis, est-ce que le PQ est pour ou contre un troisième lien? Et là, je parle pas du projet de la CAQ, parce qu'on va s'entendre les deux. Le projet de la CAQ, c'est un fouillis total depuis 8 ans. Mais sur le fait de faire un troisième pont qui relierait la Rive-Sud à la Rive-Nord de Québec, est-ce que le PQ est pour ou contre?
Ah, nous, ça fait longtemps qu'on le dit que ce n'est pas la bonne solution aux problèmes réels qui existent de fluidité de la circulation, des gens qui sont pris sur les ponts, puis sur la rive sud, puis sur la rive nord aux heures de pointe. Je le dis souvent, là, de mon bureau de circonscription, je vois les embouteillages en fin d'après-midi. Là, c'est des gens qui veulent retourner chez eux sur la rive sud. Il y a de réels problèmes et je comprends les gens qui en ont assez puis qui veulent qu'on trouve des solutions. Mais là, ça fait des années, des décennies que tout ça est regardé sous tous ses angles, sous toutes ses coutures, et de construire un nouveau lien, un troisième lien autoroutier, ce n'est pas la solution. Tout le monde le dit, les techniciens, les experts en mobilité, les financiers, tout le monde, les ingénieurs disent ça, au mieux, ce serait quelques minutes de gagner, mais en réalité, ça risque de transposer le problème ailleurs. Là, dans le projet de la CAQ, actuellement, ça ferait ressortir le tunnel, qui n'arrivera jamais, soit dit en passant, tout le monde sait que c'est de la fabulation électoraliste, mais ça le ferait ressortir en plein dans les lieux où il y a le plus de congestion actuellement sur la rive nord. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Et le problème, c'est la politisation à l'extrême des projets d'infrastructure. Il devrait y avoir au Québec ce qu'on appelle le plan québécois des infrastructures, le fameux PQI, où là, on fait de la planification à long terme sur la base de besoins réellement identifiés, d'études sérieuses, parce que c'est des milliards des Québécois. Et regardez ce qui se passe actuellement à la CAQ. Est-ce que vous entendez parler d'intérêt public? Est-ce que vous entendez parler des coûts? Est-ce que vous entendez parler des besoins réels? Non, vous entendez les candidats à la direction de la CAQ se demander qu'est-ce qui est dans leur meilleur intérêt électoral avec le troisième lien. Écoutez-les parler, là. Écoutez le débat. Il est entièrement...
Ben, c'est un débat Québec-Montréal. C'est un débat Québec-Montréal. Bernard Drainville est pour le troisième lien parce qu'il est à Lévis, puis Christine Fréchette est contre le troisième lien parce qu'elle est à Montréal.
Certains disent que c'est Québec-Montréal, parce que là, c'est intéressant de voir ce qui ressort. Mais ce qui ressort, c'est que quand la ministre de l'Économie, ou en fait celle qui était ministre de l'Économie jusqu'à tout récemment, dit qu'elle, elle a besoin de regarder les données puis de consulter, alors que ça fait 10 ans que son parti promet ça, qu'est-ce que ça veut dire de l'état de préparation de ce projet-là? Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'état de préparation. Ça veut dire que c'est du vent et que la seule chose qui importe, c'est que là, actuellement, ils sont rivés sur les sondages, les yeux rivés sur les sondages. Puis là, regarde, qu'est-ce qui va être le mieux pour nous, pour nos intérêts électoralistes? Ce n'est pas comme ça qu'on décide des milliards des Québécois. Les finances publiques sont dans un état très complexe, très difficile. On n'arrive pas à s'occuper des toits d'école qui coulent, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On n'arrive pas à s'occuper de nos infrastructures. À Québec, on a mis fin à des projets qui répondaient à des réels besoins, par exemple sur la couronne nord de Québec, sur des échangeurs autoroutiers, sur les voies réservées pour le système de transport d'autobus rapide. Puis les gens de la couronne nord méritent ça. On leur a enlevé alors que tout ça, c'était en cours. Puis pendant ce temps-là, on continue de dépenser des dizaines de millions de dollars de l'argent des Québécois sur un projet dont tout le monde sait qu'il ne se fera pas. Il n'y a personne qui est en faveur du projet proposé actuellement par la CAQ.
Monsieur Paradis, vous commencez à me connaître un peu en entrevue. Là, c'est sûr que moi, c'était mon genre de question. À dire, bon, vous interprétez comment la position de Mme Fréchette et celle de Monsieur Drainville actuellement par rapport au troisième lien? Vous avez parlé un peu de celle de Mme Fréchette. Est-ce que vous vous rangez derrière elle, en fait, pour cette course à la chefferie, puisqu'elle semble être un petit peu en train de se prononcer contre le troisième lien, du moins, elle veut l'évaluer plus que Monsieur Drainville?
Bien essayé, Pascal, mais évidemment, on ne se prononcera pas sur les affaires internes de la CAQ, mais là où on va se prononcer, c'est lorsque ça a un lien avec les politiques publiques et le gaspillage de l'argent des Québécois. Donc, actuellement, moi, je note que ce qui devait être un élément qui est inscrit au plan québécois des infrastructures, donc il y a des études sérieuses, puis on est déterminé, c'est un jouet politique dans les mains des candidats à la direction, tellement que le ministre des Transports, Jonathan Julien, dit, ben là, vu que là, c'est un projet politique, puis que c'est politisé par des candidats, moi, je suis obligé de mettre une pause là-dessus. Depuis quand on met des projets d'infrastructure sur pause? Parce qu'il y a une course à la direction.
Non, en effet, ça ne devrait pas se faire comme ça. Monsieur Paradis, les auditeurs posent la même question. Et moi aussi, j'avais justement cette question-là. Quelle est votre solution pour la congestion à Québec?
Il y en a plusieurs. D'abord, il y a un plan qui est en marche actuellement. C'est le plan cité proposé par la Caisse de dépôt et placement qui est arrivé. C'est un acteur indépendant qui a fait une revue de tout ce qui s'est dit et ce qui s'est écrit sur ces questions-là dans les dernières décennies.
Donc, est-ce que le PQ va financer en entier le plan cité s'il est élu?
Le plan cité, c'est un plan qui s'étend quand même sur une vingtaine d'années, qui ressemble beaucoup à ce que le Parti québécois avait proposé en 2022 aux dernières élections générales. Donc, c'est sûr qu'on est en construction, on est en préparation de notre plateforme pour la prochaine élection, mais on l'a indiqué à plusieurs reprises que pour nous, le plan cité, c'est ça qui nous propulse en avant, c'est ambitieux, ça va permettre à l'économie de la capitale nationale de continuer sur sa lancée. Nous, on pense que c'est un bon projet, puis là, ça comprend le tramway, les voies réservées pour du transport rapide sur la rive sud, sur la rive nord. Ça comprend, dans la dernière phrase, un lien entre le centre-ville de Québec et de Lévis, mais pour le transport en commun. Mais aussi, ce qu'on propose, c'est de finalement aller au fond des choses sur la 7e voie dynamique sur le pont Pierre-Laporte. Ça, c'était dans les études sur le 3e lien. Vous vous souvenez, là, on a embauché une 60aine de personnes. Leur job, c'était de préparer le 3e lien. À la fin, ils sont arrivés à quelle conclusion? Ils ont dit, non, ça répond pas aux besoins, c'est pas la bonne solution, ça va coûter trop cher, c'est techniquement impossible. Mais ils ont dit, il y en a d'autres, des solutions. Par exemple, on pourrait réaménager le centre du pont Pierre-Laporte pour que ce soit une voie direction nord le matin, direction sud le soir. Si je me souviens bien, ils évaluaient ça entre 65 et 100 millions, faisable en 5 ans. Pourquoi la CAQ a mis la glace là-dessus, a mis le couvercle là-dessus? Parce que ça ne correspond pas à sa promesse électoraliste. Abaisser le tablier du pont de Québec, je parlais de ça pendant la campagne électorale de Jean Talon en 2023. Ça aussi, il y a des études là-dessus. C'était à l'époque où on considérait le SRB entre la rive sud et la rive nord. On disait on serait capable d'abaisser puis de solidifier le tablier du pont de Québec. Ça permettrait de faire passer le transport lourd. Pourquoi la CAQ a mis le couvercle là-dessus? Pourquoi la CAQ n'a pas continué les études là-dessus? Ça, là, ça permettrait vraiment d'améliorer rapidement la fluidité entre les deux rives pour les gens qui en ont marre d'attendre dans leur voiture. Ça n'a pas été analysé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les intérêts électoralistes de la CAQ.
On commence à s'obstiner puis à ramener la question de la souveraineté beaucoup plus en avant-plan que je croyais. Même, je vous dirais, qu'on se demande pourquoi c'est souvent dans les premières questions en entrevue en ce moment. On connaît la position du PQ. Vous pensez quoi des derniers sondages qui sont sortis par rapport à cet intérêt ou non de la souveraineté aux prochaines élections?
Bien, vous savez, puis là, j'attends, là, vous êtes supposé me poser la question traditionnelle de nos entrevues.
Oui, bien, c'est ça, je la poserai après. Allez,
c'est
avec
celle
votre
de Jeff Gillette. Bon.
Mais je vous réponds un peu toujours la même chose, c'est que les sondages fluctuent. Entre un sondage et l'autre, puis quand ça monte, quand ça descend, ben on vous dit toujours la même chose. Vous savez, à la fin, c'est l'objectif et les raisons pourquoi on fait ça. Il y a des lignes de force actuellement pour l'indépendance. La jeunesse y adhère de plus en plus. Nous, on le voit partout au Québec. Mais ça fluctue. L'important, c'est de se dire pourquoi on a besoin de l'indépendance. Et là, on est en train de parler, par exemple, de projets d'infrastructure. Comment ça se fait que quand on parle de mobilité et de transport à Québec, on soit encore pogné à aller quêter la part qui nous revient du gouvernement fédéral. Puis là, le gouvernement fédéral, ce monde-là à Ottawa, là, où on a seulement un cinquième des votes, là, puis tout le monde est centré sur l'Ontario puis l'Alberta, là, puis ils viennent nous dire « Ouais, attendez un peu, nous autres, on va décider ce qui est bon ou ce qui est pas bon. » On a toujours une main attachée dans le dos. On envoie 90 milliards de notre argent à chaque année au fédéral pour à peu près aucun service. Nous, on propose l'opération d'allègement réglementaire et administratif la plus importante de l'histoire du Québec, se débarrasser du gouvernement de trop, puis s'occuper de nos affaires nous-mêmes. Ça, c'est bon pour quand on parle de santé, quand on parle d'éducation, quand on parle d'infrastructure, de mobilité, d'affaires internationales, de commerce international, où actuellement on subit les décisions du gouvernement fédéral. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on la fasse, l'indépendance, pour s'occuper de nos affaires selon nos intérêts.
Monsieur Paradis, je termine l'entrevue avec ma question, justement, mais j'ajoute un élément. À 10 % dans les priorités des gens, selon le sondage Somme le Soleil paru ce matin, la souveraineté est à 10 % dans la priorité des gens. Est-ce que vous continuez à marteler que vous allez faire un référendum dans le premier mandat?
On continue pour les raisons que je viens de vous mentionner. On en a besoin plus que jamais pour travailler sur les priorités. Ce qu'on est en train de faire, hein, on est en congrès, nous, à Saint-Hyacinthe, pendant 3 jours. On a travaillé sur près de 300 propositions qui ont été travaillées depuis 2 ans sur le coût de la vie, la lutte à la pauvreté, les affaires sociales, l'économie. Ensuite, on était en Beauce la semaine passée. On est allé présenter notre plan pour les PME, pour l'économie du Québec. Donc, on est sur les priorités des Québécoises et des Québécois, sur le fait que c'est pas facile actuellement quand tu sais ce que tu achetais là à 4-5$ il y a 6 mois, là c'est rendu 5-6$, puis tu sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans ton panier d'épicerie. On est là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème structurel du fédéralisme, où on envoie 90 milliards de notre argent pour pas beaucoup de services, puis beaucoup de gaspillage à Ottawa, qui est parti avec notre carte de crédit puis qui nous endette, on n'arrivera pas à trouver des solutions structurelles et à long terme à ces problèmes-là. C'est pour ça que oui, on maintient le cap.
Pascal Paradis, merci pour vos réponses franches, honnêtes et transparentes, et au plaisir de se reparler bientôt.
C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi.
Merci beaucoup, Pascal Paradis, député de Jean Talon pour le Parti québécois. Ça fait énormément réagir au 418-971-1021. J'aime beaucoup le texto d'Yves qui dit « Message à votre invité, vous semblez vous foutre des gens de la Rive-Sud qui vont travailler à Québec et qui apportent de l'argent à la ville. Nous avons besoin d'une meilleure infrastructure dans les routes de Québec qui datent des années 70. J'ai travaillé près de 40 années dans les routes domaine de la santé, j'ai fait des transferts interhospitaliers. C'est pas sécuritaire pour les patients qui sont transportés de la Rive-Sud. Évidemment, on parle en raison de la congestion routière où le délai s'allonge. C'est un texto très, très, très intéressant. Pascal, au moins, il est transparent. Pascal Paradis, il dit, on le fera pas le troisième lien à Québec. Donc, électeur de Québec, électeur de Chaudière-Appalaches, ben vous le savez, si vous votez PQ, il n'y aura pas de troisième lien.
Oui, le PQ est toujours très authentique et très franc depuis le début, du moins avec l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux dire, les idées sont claires, sont sur la table et non sous le tapis depuis le début. Je pense que ça, on peut leur donner. Mais effectivement, qu'ici, dans la grande région de Québec là, et aux alentours, on parle de Chaudière-Appalaches, les deux enjeux importants, troisième lien et souveraineté, ça passe pas nécessairement, puis on le voit souvent par texto. Je pense que c'est vraiment deux grosses épines dans le pied pour aller chercher des votes.
T'as tellement raison, par texto, ça ressort. On n'en veut pas de souveraineté, on veut un troisième lien. Bref, il n'y a pas eu de commentaires positifs pour Pascal Paradis à l'heure actuelle. Continuez d'interagir au 418-971-1021. D'ailleurs, plus tard à l'émission, aux alentours de 13h05-13h10, on va s'entretenir avec notre excellent chroniqueur animateur au 99.5, Rémi Villemeux. Puis lui, il nous pose la question... Qu'est-ce que ça dit sur notre société si on s'assine sur un pont depuis 10 ans? J'ai hâte de l'entendre là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un débat éternel. Puis tout à l'heure, je disais aux gens à Ordonne, c'est tout de même bien rien qu'un pont.
Ah oui, puis je vais envoyer un texto immédiatement à Rémi, mais c'est la même chose pour le tramway, du moins à Québec.
Ben oui, exactement, c'est la même chose. Mais après la pause à l'émission On en jase, on va avoir une entrevue très touchante et particulière avec Marie-Jeanne Sirois. C'est une maman d'un enfant qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme. OK, Pascal, écoute ça. Il est dans une école spécialisée du domaine du côté des Petits Princes, mais cette école-là, elle offre pas de service de garde. Fait qu'il se retrouve au service de garde de son école de bassin, une école que je vais mettre en parenthèse régulière. Mais là, ça fait 2 fois qu'on expulse son enfant du service de garde. Mais l'école spécialisée, elle n'offre pas de service de garde.
Elle se ramasse avec aucune option, finalement.
Exactement. Donc, c'est ce qu'on va jaser avec Marie-Jeanne Sirois immédiatement après la pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase. On vient d'avoir un excellent segment avec le caucus... Avec Antonine Iaccarini, toujours intéressant. On est revenu sur cette chicane entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. On a eu Pascal Paradis qui a confirmé que le PQ, c'est non pour un troisième lien. C'est une 7e voie sur le pont Pierre-Laporte et c'est un abaissement du pont de Québec. Vous êtes en colère, les amis, présentement au 418-971-1021. Continuez de nous texter, ça nous fait toujours plaisir de vous savoir à l'écoute. Pascal, on vient de faire un gros tour d'actualité politique avec nos intervenants, midi 52. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actualité? Il y a énormément de, je veux pas les appeler, faits divers, nouvelles plus du côté judiciaire.
Il y a un adolescent qui a été arrêté ici, là, dans la région de Québec, aujourd'hui par la GRC pour terrorisme. Alors, il aurait fait la promotion d'un groupe néo-nazi sur les réseaux sociaux. Et là, on a été capable de l'intercepter et on a vu qu'il voulait recruter d'autres individus. C'est pour ça qu'on a procédé à son arrestation. Donc, promotion d'idéologie violente de l'entité terroriste Division Atomwaffen. C'est un groupe qui est inscrit sur Facebook et les réseaux sociaux depuis février 2021. Et c'est surtout inscrit sur la liste des entités terroristes du gouvernement canadien depuis un bout. Alors, il va comparaître demain, au Palais de justice de Québec. On parle d'un groupe avec extrémisme violent à caractère idéologique. Il y aura plus de détails, bien sûr, plus tard. Les véhicules électriques, on est revenu là-dessus avec Mark Carney qui a pris la parole aujourd'hui. Ottawa veut ramener les subventions. Alors, vous allez peut-être pouvoir acheter un nouveau véhicule avec une subvention autour de 5 000 $. Ça sera à préciser quand même, mais c'est un mois après avoir annoncé l'arrivée de véhicules chinois au Canada qu'Ottawa a confirmé le retour des subventions pour l'achat d'auto électrique de 50 000 $ et moins. Sinon, du côté de Jean-François Roberge, alors on parle toujours d'immigration, du programme de l'expérience québécoise, le PEC, avec les immigrants. On a écarté une clause de droit acquis pour les travailleurs étrangers, vous le savez, ça fait beaucoup jaser, mais là, on s'engage à admettre 6 300 employés du réseau de la santé visés par le PEC. Pourquoi? Ben parce que l'avenir est incertain, le réseau de la santé, on a besoin de gens. Alors, on commence un peu, je pense, à matérialiser le manque d'effectifs qui pourrait se matérialiser avec ces renvois-là. Et on parle du programme de sélection des travailleurs qualifiés aussi, qui a remplacé le PEC, et ce, d'ici la fin de 2026. Je vous parle aussi à Toronto de cette saga, bon, difficile à croire, où 7 policiers, un ex-agent de la paix aussi, à la retraite, qui ont été arrêtés et qui auraient été impliqués dans divers crimes, dont des complots pour meurtre, fusillade, extorsion, des vols, trafic de stupéfiants. C'est énorme. Conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, arrestations qui ont eu lieu hier.
Pascal, tu sais, à l'émission On en jase, on parle beaucoup des inéquités sociales. On parle beaucoup d'itinérance. Puis on reçoit également des parents à l'occasion qui viennent nous raconter des témoignages. Est-ce que tu te souviens de Valérie David, cette maman qui était venue nous voir avec sa jeune autiste, qui avait été placée dans des foyers et qui avait reçu des mauvais traitements?
Malheureusement, oui.
Bon, ben dimanche matin, moi, quand je me suis levé, j'avais un message de Valérie David qui marquait « On m'a appelé pour me dire que l'enquête était finie. » Que cette enquête mène à la conclusion que ma fille a bel et bien été victime de violences physiques et verbales sur un moyen long terme, que les actes adéquats avaient été pris contre les employés fautifs, et elle nous remerciait justement, Boulevard 102, en particulier moi et toi, Pascal, d'avoir fait cheminer son histoire pour mener à cette conclusion-là. Fait que moi, là, pour moi, ça, c'est la force d'un média.
Parce que souvent, c'est des gens qui voient plus les ressources, hein, qui voient rien au bout du tunnel pour avancer dans leur dossier. Puis c'est un peu malheureux parce qu'on a ce pouvoir d'aider peut-être à porter le message de ces gens-là. Mais en même temps, pourquoi il faut que ça se rende dans les médias pour que ça bouge?
Exactement. C'est ce qui est très malheureux. Et on va parler d'une autre histoire malheureuse. On s'entretient avec Mary Jane Sirois, maman d'un jeune enfant qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme et qui a beaucoup de problématiques avec son centre de services scolaires. Mary Jane, merci beaucoup d'être présente avec nous.
Ça fait plaisir.
Mary Jane, raconte-nous un peu ce qui se passe. J'en ai fait un résumé avant la pause. Ton enfant est dans une école spécialisée, doit aller dans un service de garde dans une école dite régulière, puis là, il est expulsé sans préavis.
Exactement. Dans le fond, mon fils, il a un trouble du spectre de l'autisme niveau 3. Puis lui, il fréquente l'école du domaine dans le secteur Petit Prince. Ça, c'est les classes d'adaptation pour les enfants à besoins particuliers. Puis lui, il doit aller au service de garde de Stadacona, donc son école de bassin. Puis en premier lieu, en fait, ce qui s'est passé, avant les vacances de Noël, il y a eu une expulsion temporaire, le temps de mettre des solutions en place pour adapter, dans le fond, son milieu, puis qu'il y ait des meilleures expériences à l'école. Puis, Dans le fond, ce qui est arrivé après le retour, il s'est fait dans les environs du 4 décembre, mais moi, on m'a pas averti, en fait, qu'il retournait au service de garde de Stalacona. Donc, quand je suis allée à du domaine pour aller le chercher, en fait, il était pas là.
Donc, tu n'avais pas été avisé, puis toi, non. Tu t'en vas chercher ton enfant, puis il n'est pas là. La panique doit te pogner par à peu près.
Ben en fait, j'étais pas paniquée, j'étais fâchée. J'étais vraiment fâchée parce qu'il y a eu un manque de communication à quelque part, encore. Ensuite, ça va bien là, au service de garde de Stalacona, en tout cas, je pense. Puis, le 30 janvier, le vendredi 30 janvier à 18h55, on m'a envoyé un courriel d'arrêt de service définitif pour mon fils, sans préavis, sans plan de transition, sans rencontre parentale, sans solution alternative.
La veille de cet arrêt-là?
Non. En fait, le vendredi, l'arrêt se faisait le lundi.
C'est ça. Donc, dans l'immédiat, ou presque, là.
C'est ça, dans l'immédiat. Puis même si j'avais voulu avoir une solution alternative, ben on était le week-end. Tout est fermé. Fait que je pouvais pas trouver une solution pendant ce 48 heures-là. Puis, un préavis de 48 heures, c'est beaucoup trop court, surtout considérant le trouble du spectre de l'autisme de mon enfant. Il est censé avoir une transition parce que quand on fait un changement dans la routine brutale chez un enfant autiste, ça peut lui occasionner des régressions.
Ah, clairement. Pour avoir déjà travaillé avec cette clientèle-là, on repart du début. Tous les progrès qu'on a fait, on les perd.
Oui, c'est ça. C'est des désorganisations, de la régression. Après ça, au niveau comportemental, familial, il y a des nouvelles choses qui se passent parce que, justement, il a été désorganisé très brutalement. Puis, il y a eu un manque à quelque part au niveau de Stalacona. Parce qu'on est censé de suivre une procédure avant une exclusion. Il y a plusieurs étapes comme...
Ouais, quand tu parles au centre de services scolaires, premièrement, pourquoi on l'envoie à Stalacona? Puis deuxièmement, pourquoi on n'a pas suivi ces étapes-là? Parce que pour connaître des gens qui travaillent en service de garde, justement, dans les écoles, puis pour avoir déjà géré les services de garde dans des organismes communautaires, tu sais, il y a des procédures, il y a des avertissements, il y a des rencontres avec les parents, il y a des nouvelles façons de procéder sur le terrain, il y a de l'accompagnement qui va se faire avec les parents. Tout ce que tu me dis, c'est que tu n'as vécu rien de ça, puis patauf, d'en face l'expulsion.
J'ai eu aucune rencontre, j'ai eu aucun plan d'intervention. J'ai pas eu d'analyse spécifique non plus. J'ai pas eu de mise en place d'accommodement pour mon fils. Il n'y a pas eu d'évaluation, de réajustement. Et il n'y a pas eu de rencontre formelle avant de prendre une décision. Moi, on m'a juste mis devant le fait accompli, comme c'est trop difficile avec ton enfant. Fait que, t'sais, arrange-toi. C'est comme ça que je l'ai vu, en fait, là.
Ça fait pas vraiment de sens que tu aies vécu ça. Et là, quand tu communiques avec le centre de services scolaires, qu'est-ce qu'on te dit?
En fait, moi, j'ai envoyé des plaintes écrites et je n'ai pas eu de nouvelles encore. Les seules nouvelles que j'ai eues, c'est de la direction de l'école directement qui a mis en place, en fait, une date de rencontre lundi prochain. Mais moi, on m'a fait une rencontre après les faits accomplis. Fait que, tu sais,
c'est quoi les lacunes selon toi? Est-ce que tu penses que tu es la seule à vivre ce genre de désorganisation, de manque de communication-là? Penses-tu que les jeunes autistes de notre région n'ont pas nécessairement tous les coussins bénéfiques à leur cheminement personnel? Est-ce que c'est-tu un manque at large? Est-ce qu'on a oublié cette portion-là de la société? Sens-tu que ça te revient sur tes épaules, finalement?
Ben c'est clair, net et précis que je ne suis pas le seul parent d'enfants à besoins particuliers qui vit ce genre de situation-là. Puis justement, je trouve que qu'on n'en parle pas assez.
Mais c'est particulier parce que tu dis, il y a tellement d'administration dans des niaiseries du genre, si une secrétaire, une adjointe veut du papier dans son imprimante, il faut qu'elle passe par 150 paliers pour avoir sa commande. Fait qu'on s'embourbe là-dedans. Par contre, on met pas l'énergie dans d'autres spectres qui sont importants de notre société, soit l'éducation de ces gens-là avec des besoins particuliers. C'est-tu parce qu'ils sont pas assez? C'est-tu parce que on n'a pas assez travaillé? Je comprends pas... Pourquoi on s'est rendu là? Est-ce que vous êtes capable de nous ouvrir la porte vers ça?
Bien, c'est vraiment une bonne question, en fait. Parce que moi non plus, je peux pas comprendre comment on a fait pour se rendre jusque-là. Parce que, tu sais, je suis consciente que peut-être au niveau du ministère, il y a eu des coupures ou quelque chose du genre, mais mon enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme n'a pas à écoper de ça. Parce que c'est pas de sa faute à lui. Ses comportements sont pas intentionnels. Parfois, il comprend même pas qu'est-ce qu'il fait. T'sais, il est non-verbal, fait que s'il se passe quelque chose de vraiment grave, il peut même pas me le dire. Mm-hmm.
Pour rappel, on parle avec Mary Jane Sirois. C'est une maman d'un enfant de 6 ans atteint du trouble du spectre de l'autisme grade 3 et qui a vu son enfant être expulsé du service de garde de l'école pas plus tard que vendredi dernier par courriel à 18h et qui est sans moyen pour cette semaine. Mary Jane, tu rencontres le centre de service et la direction d'école lundi prochain.
Exactement.
C'est quoi tes attentes?
Moi, mes attentes, c'est que les droits de mon garçon soient respectés. Parce que même s'il y a un handicap neurologique, c'est un humain, il y a des droits. Puis il y a des protocoles aussi à respecter avant quelque chose d'aussi drastique dans sa vie. Puis aussi d'en parler parce qu'il y a un problème à quelque part, puis il faut que ça se règle. Parce que, comme je dis, c'est sûr que je ne suis pas le seul parent à qui ça arrive.
Vous n'avez aucune autre mesure là, en ce moment? Donc, non, l'enfant est à la maison avec vous? Vous êtes en arrêt de travail? Vous...
Non, moi, je suis étudiante, j'ai pu m'arranger, en fait, avec l'école du domaine qui puisse aller au service de garde en attendant que ces choses-là se règlent, puis en accepter. Sont vraiment gentils, eux autres. C'est des amours, je les aime. Puis en attendant, ça fait en sorte qu'à Stadacona, lui, il n'y a pas les ressources nécessaires pour ses besoins. Alors, comme je dis, il y a un manquement quelque part, puis faut que ça se règle à quelque part parce que on peut pas... On ne peut pas tout gérer tout seul comme ça, puis comme jeter les enfants qui ont trop de besoins parce que c'est trop difficile.
Je termine l'entrevue là-dessus, justement, Mary Jane. Ultimement, la solution est facile, à mon sens. C'est qu'il soit tout simplement admis à temps plein au service de garde de l'école du domaine.
Ben oui, j'y ai pensé. C'est sûr que ça va rendre, exemple, mes trajets à moi plus longs. Mais si ses comportements, tu sais, ils s'améliorent puis qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de mauvais comportements quand il est là-bas, tandis qu'à Stadacona, oui, fait que j'imagine qu'il y a clairement un manque à quelque part. Mais si ses comportements, ils se passent super bien comme ça, moi, je pense qu'il resterait à du domaine.
Oui, exactement. Mary Jane Sirois, merci infiniment de t'être livrée à cette entrevue-là. Je veux que tu me fasses une promesse.
Oui.
Tiens-moi au courant lundi après ta rencontre.
Ah, certainement.
Puis s'il y a lieu, on te repasse en entrevue ici à Boulevard pour mettre de la pression sur le centre de services scolaires pour l'école. Ça a-tu de l'allure, ça?
Ça a de l'allure, oui.
Il y a Marie-Ève qui t'envoie beaucoup d'amour par texto parce qu'elle vit merci. Justement avec un enfant qui a le trouble du spectre de l'autisme. Et elle dit à 12 ans, va falloir que je le fasse réévaluer encore. Donc, un paquet de bureaucratie, de papasserie.
Ah, je comprends ça.
C'est plate parce qu'ils ont tellement de potentiel. Là,
ben
ces
oui.
Ces enfants-là avec des besoins spécifiques. Puis je parle, par exemple, en connaissance de cause, moi, j'ai une tante qui est trisomique, puis ça a toujours été un branle-bas de combat, puis à un moment donné, bon, ils disent, elle a atteint tout ce qu'elle peut atteindre, effectivement, mais elle travaille, puis elle est capable de travailler, puis elle a un apport pour la société, puis elle paie ses taxes, ses impôts, comme... Il y a aussi dans tout ce qui est le spectre de l'autisme, énormément d'aptitudes, énormément de compétences, et si c'est un service de garde jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans, tu les fais pas évoluer. Fait que je me demande où est-ce qu'on se perd puis qu'on se leurre dans le fait de pas les dynamiser puis de les faire évoluer parce que ce sont des apports importants puis ils ont envie de contribuer à la société. Va faire un tour chez TAC, là. Il y en a plein d'enfants à besoins particuliers qui ont évolué puis finalement ont un emploi chez TAC puis qui font rouler l'économie d'entreprise d'ici, qui font affaire avec TAC, ça leur coûte un peu moins cher, mais ces gens-là sont motivés, ils vont au bureau puis justement, ils ont un apport. Je trouve ça triste parce que si tu restes dans un service de garde, t'es pas aussi stimulé que si t'étais dans un parcours scolaire, par exemple.
En effet. Mary-Jane Sirois, merci pour ta présence. Tiens-nous au courant, puis on va aller au combat avec toi.
Parfait, merci beaucoup.
Ça. Merci beaucoup. Après la pause, c'est Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, qui vient faire sa chronique à chaque mardi, jeudi. On va se poser cette grande question de société. Qu'est-ce que représente le fait qu'on s'astine pour un pont entre deux rives depuis 10 ans? Puis on pourrait le reporter aussi au projet du tramway.
Ouais, j'y ai écrit. Puis quand tu me dis ça, je te l'avais dit en onde, ça me fait passer au projet de tramway.
Pourquoi on s'astine de même puis qu'on fait rien? C'est quoi qui se passe dans notre société? On parle de ça avec Rémi Villemur au retour de la pause. Alors, on en jase.
Jusqu'à 14 heures. Jusqu'à 14 heures. On en jase à Boulevard 102. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Boulevard 102, émission en jase, exactement 13h13 à la météo. Aujourd'hui, c'est une belle journée, moins 9. On parle de faible neige intermittente, mais le ciel est très bleu présentement, donc ça sera en fin de journée. Alternance de soleil et nuages, moins 9 pour vendredi. Il y aura de la neige samedi, moins 9. Ça se refroidit dimanche à moins 14. Pour écouter les meilleurs moments, c'est blvd.fm. On a eu des excellentes entrevues. Caucus avec Antonine Iaccarini, entrevue avec Pascal Paradis. En veulent pas, troisième lien à Québec, le PQ. Et également cette entrevue très touchante avec Mary-Jane Sirois, une maman qui se retrouve sans service de garde pour son enfant qui vit avec le trouble du spectre de l'autisme à 6 ans. Ça va se retrouver sur le blvd.fm. Évidemment, je sais qu'à cette heure-là, des fois, vous n'êtes plus dans la voiture. Donc, téléchargez l'application Boulevard 102.1 sur App Store et Google Play Store. Pascal CV, t'es-tu tanné d'entendre parler du troisième lien?
Ben, j'ai pas le choix vu mon travail. J'ai surtout envie qu'on se prononce, mais pour une dernière fois.
Exactement. Question de société très pertinente de Rémi Villemur. Ça dit quoi de notre société si ça fait 10 ans qu'on s'astine pour un pont? Un pont! On met des pylônes, de l'asphalte, on fait passer des chars, des autobus, puis c'est réglé.
On est-tu des branleux?
Ouais, ça dit quoi, ça? Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, est avec nous comme à chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h10, 13h15. Monsieur Villemur, vous êtes salué.
Bonjour à vous deux. Ben, moi, cette question-là, je me la pose depuis bien plus longtemps que certains, là, ça a commencé à me tanner le jour où il y a eu un premier débat, et là, je pensais que c'était réglé, puis il y en a eu un deuxième. Là, je me suis dit, il n'y en aura pas un troisième, puis là, il y en a eu un troisième. Ce qui me vient instinctivement, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est l'idée qu'on est peut-être plus capable de rêver. C'est-à-dire, dans une société normale, tu peux rêver, par exemple, d'aller sur la Lune, hein, les Américains font ça, tu peux rêver, par exemple, d'exporter tes produits à l'autre bout du monde, tu peux rêver de bâtir une génération d'entrepreneurs, tu sais, tu peux rêver à toutes sortes d'affaires, tu peux rêver de voir certains de tes scientifiques recevoir des prix Nobel, tu peux rêver de régler un tas de mais un pont ou un tunnel, puis au bout, tu sais, c'est du béton, là, c'est du béton, c'est de l'alliage de matériaux, il n'y a rien de méga inspirant là-dedans. Mais c'est peut-être tout ce qu'on est capable de faire. Puis ça, je le dis avec beaucoup de tendresse pour les Québécois, parce que j'en fais partie des Québécois, là. On a vu certains des gros projets de société qui nous ont eux aussi divisés, mais qui nous ont peut-être un peu plus élevés, ne pas se réaliser. Tu sais, le projet d'indépendance du Québec, pendant des années, c'était ça qui était le sujet numéro un à table, là. À partir des années 60 jusqu'au milieu des années 90, là, c'était difficile de souper à table et de ne pas en parler à un moment ou à un autre. Maintenant, on parle moins de ça. On va peut-être se remettre à en parler, mais on parle de quoi? On parle du troisième lien. On parle d'un lien. On parle d'un projet d'infrastructure. Il y a quelque chose, à mon avis, qui relève de la faillite. De la faillite du Québec à s'élever, à se voir autrement, à s'imaginer d'une autre façon, à se rêver. Toutes les sociétés doivent se rêver parce que sinon, ces sociétés-là sont mortes.
On est-tu des peureux? Moi, j'entends là-dedans qu'on est des peureux. Vois-tu, moi, ta question, j'aurais répondu que notre démocratie, elle est dans la lenteur par design. Ça veut dire, bien, c'est une conception, là. On parle de durabilité, d'éthique, de qualité sur la vitesse de production. Puis ça, pour moi, on n'a pas ça. C'est comme si on veut éviter des décisions qui sont irréversibles puis qui seraient prises trop vite. Fait que dans tout ça, on fait rien. Mais encore là, quand on fait rien, on chiale. Puis un pont, je veux dire, c'est faisable, là. Regardez Dubaï, comment ça a été construit. On a toujours bien une expertise qui serait capable d'en créer un.
Et c'est très bien vu parce que c'est vrai, c'est peut-être ça qui nous fait hésiter. On se dit, si on y va de l'avant, il n'y a plus de manière de reculer. Donc, ce n'est pas juste une décision comme une autre. Ben, c'est un projet de ceci. Non, c'est un pont. Les amis, c'est un pont. Puis de
C'est
toute
ça.
façon, la manière qu'on les construit ici, ils ne durent pas 5-6 ans avant qu'on ait besoin
Malheureusement.
de re-questionner leur rôle puis leur destin. Fait qu'on n'a pas besoin de se projeter 30 ans en avant. Là, dans 5-6 ans, il va être à réparer ce pont-là. Puis si on hésite puis on choke, on le mettra à terre. Mais il y a une autre chose aussi que je vois dans ce débat-là, précisément ce débat-là, parce que je pourrais vous dire, ah, on parle depuis 10 ans aussi de réformer le système de santé. Ça aussi, c'est un témoin du fait qu'on a failli à faire autre chose. Mais le projet de pont, pensez à un couple. Vous allez souper chez des amis, puis ce couple-là se chicane tout le temps. Puis sur des niaiseries, là, sur des niaiseries. Puis à un moment donné, là, le souper est terminé, puis vous avez prévu aller voir un spectacle, puis il est le temps de sortir, de mettre le manteau, de s'en aller, on réchauffe la voiture. Puis ce couple-là est en train de mettre ses bottes, là, puis ça tarde à s'en aller, puis ça chicane encore. Ça, c'est nous autres, ça. Ça, c'est nous autres. Ça, c'est les Québécois. Les Québécois, on se chicane entre nous autres sur des niaiseries, parce que oui, je regrette, mais c'est une niaiserie, là, après 10 ans, de se demander si oui ou non on fait un pont. Pendant ce temps-là, il y a d'autres sociétés, imaginez d'autres couples qui ont des discussions plus profondes, plus inspirantes, hein, plus intellectuelles. C'est meilleur, c'est de la meilleure bouffe pour le cerveau.
Qui se consolide aussi, puis qui a une meilleure complicité, qui avance justement dans des bases beaucoup plus, je pense, solides, si je veux finir ton image. Mais il y a un coup politique aussi, moi, je pense, là-dedans. Puis je crois que beaucoup de politiciens sont rendus extrêmement fragile. Tu sais, de se dire, ah, mais si c'est nous qui le faisons, peut-être qu'on ne sera pas encore à la tête de la province ou du pays dans quelques années. Merde, là. Non, non, mais à un moment donné, foncez. Je ne peux pas croire que toi, tu n'es pas cette fougue politique-là de dire, je vais faire un projet ou je ne le ferai pas, puis on va trancher. De toute manière, ils sont taillis. Tu sais, ils sont taillis peu importe ce qu'ils vont faire. À un moment donné, ils peuvent être taillis pour un projet de société, non?
Oui, puis à un moment donné, il va falloir en sortir précisément de ce débat-là, parce qu'on en parlait avant d'entrer en onde. C'est pas une erreur que de dire c'est les régions ou Québec versus Montréal. Montréal n'a pas de mot à dire là-dedans. Je regrette, moi j'habite à Montréal, là, je vous parle en direct de
Ah,
Montréal.
Rémi
C'est pas
Villemur, je t'adore.
Pourquoi sont dans
de nos
débat
affaires,
alors,
là.
selon toi?
Ben, parce que l'élite médiatique, l'élite culturelle, qui est très marquée à gauche, qui associe ce projet-là à de la pollution atmosphérique, elle a une opinion. Sauf que le jour où elle va être pognée encore plus dans le trafic, puis qu'il va être question de bâtir ou non un pont, ouh là là, on pourrait les voir retourner leur veste. Ils sont capables de faire ça. C'est pas de nos affaires. Moi, là, ça me concerne-tu ce qui se passe au Nunavut, ce qui se passe en Ontario, ce qui se passe d'autre bord de la frontière? Regardez, c'est la même affaire pour Québec. Ça va être à 3 heures. Je ne prends pas la route tous les jours à Québec. Je ne suis pas pogné dans les bouchons. Je ne dois pas faire le fameux fer à cheval pour me ramasser de l'autre bord. On m'en parle souvent de ça.
Le spaghetti
J'ai
des
pas
ponts.
de. Ben oui, ben voilà, exactement. Donc, regardez, moi, je veux qu'on en finisse. On peut-tu en finir, là? Ouais. À la limite, là, faisons le pas. OK, passons à autre chose, mais sinon faisons-le et passons à autre chose. Dénominateur commun, passons à autre chose.
Je suis tellement d'accord avec toi et ça me fait penser à autre chose, Rémi, puis je veux t'entendre là-dessus. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises au Québec, il y a toujours une tollée de contestation. Et là, moi, je suis pour la laïcité de l'État. Je suis tanné. Je suis tanné d'entendre la FAE se promener sur toutes les tribunes puis dire « Oui, mais là, on va manquer d'enseignants parce que vous enlevez le voile des écoles! » Je suis tanné de ça. On peut-tu prendre une décision, arrêter de contester puis aller par en avant, s'il vous plaît?
Ben, de toute façon, la décision, elle est déjà prise, là, hein? Puis elle est, la plupart des Québécois sont derrière elle. Il y a jamais eu une minorité de Québécois qui était derrière la loi 21, puis ça va faire bientôt 10 ans qu'elle est dans les boîtes à la CAQ. Donc, à un moment donné, on peut-tu l'accepter? Même le chef du Parlement, qu'est-ce que j'ai dit, le chef, il n'est plus chef. Pablo Rodriguez était pour la loi 21, avait dit que c'était la preuve qu'il y avait un consensus. Ta-ta-ta-ta-ta. Mais tu viens de mettre un doigt sur une des raisons pour lesquelles il y a encore ce conflit-là sur le plan idéologique. Il y a une rhétorique de l'autre côté, de ceux qui sont anti-loi 21. Je vais vous lire le premier paragraphe d'un article de journal dans Le Devoir. Ce n'est pas un article d'opinion, ce n'est pas une chronique, là. C'est un article de journal. L'interdiction, c'est paru ce matin dans Le Devoir, un article de Zacharie Goudreau, l'interdiction de porter un signe religieux imposé au personnel scolaire risque de faire particulièrement mal aux écoles du Québec, puisque cette directive s'applique aussi aux bénévoles, a appris Le Devoir. Je répète, l'interdiction de porter un signe religieux imposé au personnel scolaire risque de faire particulièrement mal aux écoles. C'est pas l'interdiction de porter un signe religieux qui va faire mal aux écoles, c'est l'entêtement de certains religieux à le porter qui va faire mal aux écoles. Parce que si vous n'êtes pas capable de dire « je choisis ma job » plutôt que de porter un signe religieux, quel qu'il soit, ben peut-être que effectivement le Québec n'est pas la place pour vous. Parce qu'ici, on a tourné le dos à la religion de cette façon-là. Ici, on assume que c'est un symbole banal, c'est-à-dire que vous le gardez pour votre intimité à la maison, vous lui accordez toute l'importance qu'il a, mais dans le domaine professionnel, vous devriez être capable de lui tourner le dos 8 heures par jour. Mais si c'est plus important que votre travail, ah ben là, il y a une autre question qu'on devrait peut-être se poser.
Ah, j'adore ce que tu viens de dire, Rémi. J'adore ce que tu viens de dire. Puis il faut se permettre de se le dire, ça, en société. Parce qu'après, tu te dis, ben parfait, c'est correct. Tu as le droit que ta religion soit plus importante que ce qu'on te demande d'accepter pour avoir ce travail-là. Ben dans ce cas-ci, trouve un autre travail. Dans ce travail-ci, voici les règlements, comme nous, on en a, comme toi, t'en as, comme n'importe qui nous écoute en ont. Et il faut faire avec.
Ben oui, mais parce que c'est un chantage. La FAE ne cesse de dire on manque de personnel, donc la loi 21 va faire en sorte qu'il y en aura moins. Ben non, pas normalement non. Dans une société où les gens s'intègrent à la société québécoise, c'est pas un enjeu. Les gens, on leur dit, la majorité, on veut pas ça dans nos institutions publiques. On n'en veut pas. C'est pas de vous qu'on veut pas, c'est de la religion. OK? Donc, si vous ne l'acceptez pas, ben normalement, tu sais, allez-vous-en. Je suis désolé de le dire de même. C'est un peu plate à dire. Je sais que c'est un peu vulgaire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on tourne en rond beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais et c'est oui. Un chantage rhétorique que je suis tanné de devoir assumer et devoir encaisser.
Ben non, mais je suis tellement d'accord. Moi, je travaillais pour les patros. Puis les patros, à l'époque, c'était géré par des religieux. Quand ça a arrêté d'être géré par des religieux, ben à un moment donné, on dit les patros deviennent laïcs. Fait que je me suis promené dans le patro Charlebourg. J'ai dit un crucifix, on l'enlève. Il y a un corps de Jésus, on l'enlève. Ça a pris 5 minutes, c'était fait. On était devenu laïcs. Ben oui, je sais, Satan. Hey, je termine là-dessus, Rémi. Est-ce qu'il manque d'enseignants en raison des mauvaises décisions du gouvernement ou parce que les syndicats font toujours dépeindre la profession comme étant la pire profession du monde?
C'est une large question. C'est vaste. Écoute, il manque des enseignants pour plusieurs raisons. Mais je pense que, honnêtement, pour avoir été enseignant, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit.
Ah non,
enseignant.
Je ne savais pas ça.
Mais je l'étais même il y a encore quelques mois.
J'étais enseignant.
J'étais quand même, honnêtement, faudrait demander. Les élèves m'ont trouvé dur, mais un jour, ils vont se rappeler de moi comme d'un des grands professeurs qu'ils auront eu sur leur, sur leur chemin.
T'enseignais quoi?
Ouais, mais moi, ça prend du temps. Là. Je suis comme un bon vin. Là. C'est pas un Wallaroo.
C'est ça que tes ex disent aussi, Rémi?
Non, mes ex, elles m'apprécient du début jusqu'à la fin. Donc, c'est autre chose. Ça. C'est un autre sujet, Pascal. Écoute, je peux revenir demain en parler gratuitement. Ça me fait plaisir. Les professeurs, c'est un métier compliqué. Pour finir, je pense que si le syndicat pouvait peut-être desserrer un peu la ceinture, ça serait peut-être...
Nathalie, par texto, t'écris « Wow, Rémi Villemur, jamais si bien dit lorsque tu parles de la laïcité de l'État dans nos écoles. » Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de jaser avec toi. On parle avec toi chaque mardi et jeudi à l'émission On en jase aux alentours de 13h10, 13h15. Je te souhaite un excellent week-end et on se reparle mardi prochain.
Bye.
Salut Rémi. Rémi Villemur, animateur au 90.19.5 Montréal, un homme au franc-parler, un gars que j'apprécie énormément.
Cette dernière
énormément.
Réflexion, j'en suis jalouse d'où sa tête est allée.
Ben oui! Tellement intelligent ce Rémi-là. À suivre, il y a son podcast également. Suivez-le sur tous les réseaux. Parlant de gars intelligent, Pascal, après la pause, on va voir Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. On va parler du fameux gaz liquéfié parce que c'est beaucoup dans l'air, mais au Québec, on le développe pas encore. Par contre, le PQ, dans son caucus, il y a 2 semaines, a dit... on fera pas de motion qu'on est contre le développement. Alors, Gabriel va nous arriver avec des chiffres très pertinents pour prouver qu'au Québec, ça vaudrait la peine. Puis en plus que le PQ, c'est un parti souverainiste. Fait que s'il veut nous séparer, il va falloir s'enrichir. Donc, amis péquistes, on était moins amis tantôt dans l'entrevue avec Pascal Paradis. Soyez à l'écoute. Et tous nos autres auditeurs pour Gabriel Giguère immédiatement après cette courte pause à On en jase sur Boulevard 101. Émission On en jase sur l'heure du midi. On décortique l'actualité pour toi. On parle des grands enjeux. Retour de Gravel, évidemment, de 14h à 18h. Entre autres, Sam Tremblay, Michaud, qui va venir parler de l'électrification des véhicules, la nouvelle subvention. Et on aura également Élise Berger, excellente urgentologue, qui va venir faire une chronique dans le retour
toujours
de Gravel.
Intéressante.
Toujours très intéressante. Quand je dis qu'on parle des grands enjeux, Pascal, le gaz liquéfié, là, on en entend parler depuis longtemps, ça aussi au Québec. Puis, comme pour le troisième lien puis le tramway, on branle dans le manche.
Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, j'ai pas, justement, j'ai pas tant d'informations, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Je pense que c'est une des grandes raisons du pourquoi on s'en va jaser de ça avec notre collaborateur.
Exactement. Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal, est avec nous pour parler de cette possibilité d'usine de gaz liquéfié au Québec. Gabriel, je reprends les commentaires de Christian par texto 418-971-101 qui disent « Pas mêlant, on dort au gaz. » C'est-tu vrai qu'on dort au gaz au Québec?
Je pense que c'est assez clair. Là. Déjà, le premier refus en 2021 du gaz de GNL Québec essentiellement était un mauvais refus. Maintenant, on a potentiellement l'opportunité d'avoir un nouveau projet de gaz naturel liquéfié au Québec. Et il y a plusieurs raisons pourquoi c'est un bon projet, ou plutôt pourquoi on doit sincèrement l'envisager du côté de la classe politique. Aujourd'hui, on a une dynamique où il y a une demande mondiale qui devra augmenter de 30 % d'ici 2050 selon les scénarios là, des politiques actuelles de l'Agence internationale de l'énergie. Concrètement, le monde va en vouloir du gaz naturel demain puis après-demain. L'Europe reste avec une demande importante et ce qu'on voit, c'est qu'on a un avantage géographique. Tu sais, en ce moment, les grands exportateurs de gaz naturel, c'est le Golfe du Mexique. Puis c'est également le Qatar. Mais quand on regarde par mille nautiques, quand il faut envoyer le gaz naturel en Europe, ce qu'on voit, c'est que on est à un peu moins de 3000 milles nautiques, ce qui est beaucoup moins que les comparables. Là, c'est 8 jours de transport de bateau contre 14 jours les États-Unis, puis presque plus de 17 jours au Qatar. Donc, on a un avantage. C'est moins long. Et qui dit moins long, ben, dit moins cher parce que moins de jours de location, moins de carburant. Bref, il y a cet aspect-là qui est important. Il y a l'aspect de la stratégie, j'ai envie de dire, où on a les États-Unis qui ne sont plus des partenaires fiables pour l'Europe qu'ils étaient. Alors, le fait d'avoir un partenaire fiable comme le Québec, je pense que c'est évident. On est des bons joueurs et on devrait en profiter.
Ça bloque ou on n'est juste pas assez au courant de tout ça? Parce qu'il manque beaucoup d'éducation là, sur ce type d'énergie-là et de ressources-là.
Moi, je pense que le secteur énergétique au Québec, c'est l'enjeu au Québec où les politiciens sont le plus déconnectés de la population. Quand tu demandes au monde, est-ce qu'on devrait utiliser notre pétrole? Est-ce qu'on devrait avoir une usine de gaz naturel? Il y a plus de 50 % de la population qui te dit oui, puis tu as 100 % des députés à l'Assemblée nationale qui votent non. Fait que, à un moment donné, tu peux pas être plus déconnecté que ça de la population sur un enjeu. Puis là, ce qu'on a vu avec GNL Québec, c'est cette déconnexion-là en action, de dire, ben, en ce moment, le monde du Saguenay en veut, pas mal de monde à Québec en veulent, mais bien les environnementalistes de Montréal en veulent pas. Fait qu'on en, ça fait aucun sens parce que c'est les familles du Saguenay qui n'ont pas pu l'avoir. Maintenant, depuis l'élection de Donald Trump, il y a un changement où on comprend que le secteur énergétique est central, on comprend que ça va prendre encore du gaz naturel à travers le monde et comme on le comprend, ben les politiciens, même québécois, mais aussi fédéral, se disent ben un projet comme Marinvest, on va y réfléchir. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on y réfléchisse très, très durement et très rapidement pour s'assurer qu'on mette en place les bonnes politiques pour l'accepter, pour s'assurer qu'on puisse développer le secteur énergétique au Québec qui est sous-développé, créer de la prospérité. Tu sais, quand on parle de bons emplois, là, quand on regarde la moyenne de salaire en 2023 du secteur gazier et pétrolier, c'est plus que 150 000 $.
Il n'y a personne qui va dire non, surtout en pleine crise économique et surtout avec le coût de la vie qui augmente. Gabriel, tu nous as parlé de notre position géographique qui était très stratégique et positive pour nous. Mais parle-moi, parce que dans votre étude aussi, vous parlez d'une augmentation de la demande, surtout en sol européen, mais une diminution de leur capacité à en produire.
Bien, tu as tout à fait raison. En fait, la dynamique de l'Europe, la demande va rester importante là, pour les prochaines décennies. Et ce qu'on constate, c'est que l'Europe, en 2021, importait la majorité de son gaz naturel de la Russie. N'importe qui écoute se rappelle qu'en 2022, on a eu commencé la guerre avec l'Ukraine. Mm-hmm. Et ça, c'est venu vraiment faire un gros chamboulement sur la question énergétique européenne. On a vu en 2022 le prix du gaz exploser. Bref, il y a un ban, en fait, il y a une interdiction d'importation du gaz russe. Donc, il y a un changement vers la Norvège, beaucoup, un petit peu vers les États-Unis également. Mais ce qu'on constate, c'est que la Norvège, quand on regarde les papiers du ministère, ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs scénarios de production d'hydrocarbures, dont de gaz naturel. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des réductions importantes. On parle de réduction pour le scénario de base de 64 % d'ici 2050. Et ce que ça veut dire concrètement, ben, ça veut dire une baisse des exportations. Donc, il va y avoir une ouverture pour le marché européen. Et le Québec ne devrait pas rester sur les lignes de côté. Le Québec devrait s'assurer d'utiliser la loi C5 au fédéral qui permet de désigner des projets prioritaire. Et au Québec, en décembre 2025, le ministre fédéral a déposé la loi Q5, qui essentiellement permet également de désigner des projets comme projets prioritaires. Deux choses à faire, l'adopter rapidement et désigner un bon projet de gaz naturel liquéfié pour s'assurer de faire de l'argent et de créer de la prospérité au Québec.
Ce serait pour nous alimenter majoritairement ou encore justement vendre, parce que si on exporte, malgré tout, on est loin là, des pays qui pourraient être très intéressés rapidement.
Non, effectivement. En fait, nous, là, ce type d'usine-là, c'est moins pour la consommation interne que pour l'exportation de la ressource. Encore une fois, on est loin de l'Europe, mais quand on se compare aux grands joueurs comme les États-Unis et le Qatar, on est plus proche, là, notamment des ports comme Dunkirk, Gat, qui est le port de Rotterdam, même Barcelone, on est plus proche. Donc, on a un avantage comparatif qui est assez important en matière de transport de gaz naturel liquéfié. Puis bien entendu, on peut également ouvrir ça et exporter aussi en Afrique, qui va être un marché à croissance dans la demande de gaz naturel liquéfié. Et là, on n'a pas ce type de projet-là dans l'Est du Canada. Hein? On a une capacité de produire du gaz naturel. On en consomme 50% ici. On vient d'avoir un projet finalisé dans l'Ouest canadien. Et là, au Québec, on veut créer de la richesse. On veut en créer, mais on met en place des politiques publiques et des règles qui viennent freiner l'exploitation de nos ressources et qui disent non à cette création de richesse à travers des grands projets comme le gaz naturel liquéfié. Alors, c'est le temps au Québec et au fédéral de dire oui, on veut développer le Québec, on veut aller vers le secteur énergétique. Ce n'est pas un secteur d'hier, c'est un secteur de demain.
Et parlant de ce secteur de demain, Gabriel, en terminant, c'est quoi les retombées économiques pour le Québec si on décide justement d'enfin exploiter le gaz liquéfié?
Alors, le minimum, c'est qu'il va y avoir des milliards de dollars d'investissement en capital.
Attends, milliards!
Bien sûr, juste GNL Québec, c'est à peu près 9-10 milliards dans les papiers qui avaient été déposés en 2015-2016.
OK, fait que là, on est rendu à 15, 16, 17, 18, là.
Je fais attention, mais ton instinct est excellent. Ça a pas mal augmenté. Ça crée beaucoup d'emplois. Ça permet également d'avoir des emplois d'exploitation, ou plutôt d'opération de l'usine. Ça, c'est des bons emplois de qualité pour les familles de Baie-Comeau. Je pense qu'on y gagne tous.
Gabriel Giguère est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Pascal, il est en forte demande d'entrevue aujourd'hui parce que l'étude qu'il a faite sur cette usine de gaz naturel dans le secteur de Baie-Comeau fait des petits et a souhaité que nos politiciens vont enfin se réveiller puis vont décider d'exploiter nos ressources naturelles parce qu'on a besoin énormément de richesses au Québec et au Canada. Gabriel, c'est toujours un plaisir de te parler.
Plaisir partagé.
Tu nous reviens avec un bon dossier la semaine prochaine?
Il va falloir.
Yes! Salut, Gab. Merci Salut. Beaucoup. Gabriel Giguère, homme tellement compétent pour l'Institut économique de Montréal. Il collabore une fois par semaine ici à l'émission On en jase. Pascal, écoute bien ça, tu vas capoter.
Voilà Bolduc maintenant, avec quelques secondes seulement à la pénalité. Tente! Et on fait l'action à la but! Et le vénérable Brendan Gallagher poursuit sur sa lancée dans ce match. C'est 4-1. Quel but important. Supériorité numérique.
Victoire de 5-1 hier du Canadien de Montréal sur les Jets de Winnipeg. Ça met le Canadien qui tombe en congé jusqu'au 26 février en raison de la pause olympique. Donc, ce sera les Islanders de New York, les prochains adversaires. Le Canadien est bon deuxième dans la division Atlantique grâce à un excellent voyage de 2 victoires et 1 défaite en prolongation. 3 points pour Gallagher, 3 points pour Josh Anderson. C'est la première fois en 4 ans qu'il faisait ça dans un match. Et 36 arrêts pour le petit Québécois Samuel Montembeault. Donc, le Canadien de Montréal est en feu. Pascal, ça te rend heureuse, hein?
Oui. Passionné.
Ah oui, passionné. Et petite note, parce que j'ai parlé du tournoi olympique, alors...
Ça m'intéresse beaucoup.
Ouais, Braden Point, excellent joueur du Lightning de Tampa Bay qui fait partie d'équipe Canada. On va en savoir plus sur son statut cette fin de semaine parce qu'il est blessé à l'heure actuelle. Mais le Canada n'a pas prévu amener de joueurs en surplus. Donc, ça voudrait dire que Braden Point serait sur le point de faire un retour au jeu, participerait au tournoi olympique et serait sur le même trio que Connor McDavid et Mitch Marner.
C'est pas un bon risque, par exemple, de faire ça si quelqu'un se blesse, comme on a vu, par exemple, le snowboarder olympien.
Ben, ils vont pouvoir en faire voyager.
Assez rapidement?
Oui, assez rapidement. Okay. Donc, ils vont être en mesure de le faire. Courte pause à Boulevard 102 à l'émission. On en jase par la suite. Pascal, on va parler avec Éric Lacroix de la firme de sondage Chum, parce qu'un sondage super intéressant est paru dans Le Soleil aujourd'hui sur les priorités des Québécois. Et pour une des premières fois, c'est pas la santé qui est en premier. C'est le coût de la vie.
On n'est pas surpris.
Non, vraiment, mais vraiment pas surpris. On parle de ceci avec Éric Lacroix après cette courte pause à l'émission d'En jase. Exactement 13h46 sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission On en jase. On va parler avec Éric Lacroix de ce sondage très intéressant, Somme le soleil qui est paru. Avant, vous rappelez à la météo que c'est moins 9 degrés, faible neige intermittente. En fin de journée, parce que Pascal, sortir, là, tu vas voir le beau ciel bleu, c'est tellement beau. Ah, j'adore qu'on a le soleil comme ça. Moins 9 alternant soleil et nuages pour demain, samedi, c'est moins 9 neige intermittente. Et moins 14 nuageux pour dimanche. Je vais parler de Gravel dans le retour, qui est de 14h à 18h, à ne pas manquer après notre émission. Mais manquez pas Marceau le soir, aujourd'hui, 18h. Lambert Drainville, un de nos collaborateurs réguliers à l'émission On en jase, qui est avec Yannick Marceau-Pascal. On jasait pas mal de famille puis de politique, j'ai l'impression.
Oui, entre autres, mais c'est sûr que là, ces temps-ci, il y a beaucoup d'enjeux qui retiennent l'attention. Puis je pense que là-dessus, Yannick, il voulait se faire très vocal avec Lambert Drainville. Je sais qu'au menu, ce qu'ils avaient, entre autres, c'est la course à la chefferie, les chichis de la CAQ, le troisième lien, les partis qui gèrent les sondages actuellement, les tensions à l'interne dans les partis. Puis bien sûr, toute la polémique du Parti libéral.
Ne manquez pas ça sur nos ondes. À compter de 18h dans Marceau le soir, Yannick Marceau s'entretient avec Lambert Drainville. Et Lambert Drainville sera en studio avec nous et Farnell Morissette demain pour le segment Lambert Drainville, Farnell Morissette. En attendant, on va rejoindre Éric Lacroix de la firme Somme, de la firme de sondage Somme. Il est vice-président et chef de la stratégie des affaires. Éric, comment vas-tu?
Ça va très bien. Bonjour à vous deux.
Éric, merci pour ta disponibilité aujourd'hui. Sondage sur les inquiétudes des Québécois qui sont aux antipodes de celles des politiciens. Parce que pendant que les politiciens nous parlent de souveraineté et nous parlent également de laïcité, ben les Québécois, eux, ce qui les inquiète, c'est le coût de la vie.
Oui, définitivement. En fait, la question qu'on a posée, c'est vraiment, ça va être quoi les enjeux qui vont influencer votre vote aux prochaines élections? Donc ça, c'est fondamental d'y penser parce que la souveraineté, on va en parler dans un instant, elle arrive très loin. Donc, les deux premiers enjeux qui sont les plus importants, qui vont influencer le vote, donc le coût de la vie, incluant l'alimentation et le système de santé. Ça, pour les Québécois, là, pour 70 % des Québécois, le coût de la vie fait partie de leurs top trois enjeux. Et 65 % d'entre eux, le système de santé fait partie de leurs trois enjeux principaux qui vont influencer le vote. Donc, le parti qui sera offrir des propositions qui vont faire rêver les gens en ce sens-là, risque d'avoir le vote de façon importante. À l'autre bout, dans le fond, la lutte contre l'itinérance, la souveraineté du Québec et la laïcité de l'État, c'est 10-11 % seulement de gens pour qui ça fait partie de leur top 3 enjeux.
Et pourtant, c'est ce dont on entend le plus parler en ce moment. On se demande pour qui on fait de la politique, mis à part la reconstruction des partis puis de ces enjeux-là ces temps-ci. Même moi, je déplorais que ce soit les premières questions d'entrevue ces jours-ci. Mais est-ce que vous avez vu à travers vos années et votre expérience des partis gagner quand ils se penchaient réellement sur les priorités que vous sortez en sondage?
Ben normalement oui, effectivement les partis qui gagnent représentent normalement les priorités qui sont importantes aux yeux des gens qui votent. Donc jadis la question de l'environnement était très importante dans les deux trois dernières élections. Présentement la protection de l'environnement arrive au cinquième rang seulement au niveau du top 3, on est à 23 %. Mais c'est sûr que les partis qui sont le plus connectés avec les enjeux qui apparaissent prioritaires aux yeux des gens, ont plus de chances d'avoir des votes. C'est comme là, présentement, l'idée de la souveraineté, bon, le PQ gagne les élections partielles. Pas parce qu'ils parlent de souveraineté, parce qu'ils sont la meilleure façon, ils sont les premiers dans les sondages, ils sont la meilleure façon de punir la CAQ. Par contre, est-ce que lorsque l'élection va être à l'ensemble du Québec, c'est l'élection générale, est-ce que si M. Saint-Pierre-Plamondon continue de marteler l'idée que la souveraineté, c'est son objectif numéro un, etc., est-ce qu'il rejoint les rêves des gens, est-ce qu'il rejoint les priorités? Apparemment, vraiment pas, là, ce qu'on voit dans ce sondage-là.
Super intéressant. On s'entretient avec Éric Lacroix, vice-président et chef de la stratégie d'affaires chez Somme. Éric, il y a un parti politique qui parle énormément du coût de la vie, qui inclut également l'alimentation, et c'est Québec solidaire. Comment t'expliques que Québec solidaire monte pas plus dans les sondages? Est-ce que c'est parce que leurs autres idées sont beaucoup trop à gauche du spectre politique?
Ils ont des idées à gauche, effectivement. les idées un peu plus droites ou centre-droite, là, c'est les étiquettes que les politiciens se collent à eux-mêmes.
Tout le monde est de centre-droit pour Québec solidaire présentement, Éric.
Oui, c'est ça, exact. Exact. Fait que je veux dire, les idées d'État plus efficace, d'arrêter de faire des gaspilles comme ça clique, d'arrêter l'interventionnisme comme Nordvolt, comme Lyon Électrique, etc., c'est des propositions qui rejoignent beaucoup plus les gens à l'heure actuelle. Québec solidaire n'est pas du tout dans ce sens-là. Est-ce que la façon dont Québec solidaire aussi parle de réduire le coût de la vie, est-ce que c'est vu comme une proposition réaliste qui fait en sorte que les gens ont envie d'y adhérer? C'est pas certain à ce moment-ci. Donc, c'est ce qui explique potentiellement le manque d'adéquation là, entre les intentions de vote pour Québec solidaire et la priorité des jeunes. Par contre, ça peut leur servir au moment de l'élection générale, par contre. Parce que ça fait vraiment partie... Si les propositions avec lesquelles ils vont présenter, finalement, aux électeurs québécois tiennent la route, ont l'air de pouvoir fonctionner, il y a des bonnes chances qu'un grand nombre de personnes se rangent, beaucoup plus important que ce qu'ils ont dans les sondages actuellement, se rangent derrière eux.
Vous allez trouver ma question simpliste, mais en même temps, elle est vraiment profonde. Pourquoi vous faites ces sondages-là? Pourquoi vous mettez en avant-plan les priorités des Québécois en matière de politique? Ça me semble apparent, puis ça me semble évident, plus que vous faites ressortir.
Oui, bien, on s'attendait, par contre, parce que évidemment, si on travaille ça avec les gens du Soleil, c'est les choses qu'eux voient comme pouvant intéresser leurs lecteurs, bien sûr. Puis nous, on travaille avec eux. Mais dans ce cas-là, j'avoue personnellement que je suis surpris que la souveraineté soit si loin. Il y a quand même 32 % des gens, ou 35 % dépendant des sondages récents, qui voteraient en faveur de la souveraineté. Par contre, c'est pas dans leur priorité.
Ça vous dit
c'est
quoi? Est-ce que ça vous dit que les partis politiques tentent de mettre de l'avant leurs propres idées versus ce qui intéresse vraiment l'électorat?
Ben, ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. La laïcité de l'État aussi à 10 %, ça va dans le même sens. La lutte contre l'itinérance, je pense pas qu'il y ait personne qui soit en faveur de l'itinérance, mais par contre, c'est pas ça qui va influencer le vote des gens.
Éric Lacroix est vice-président et chef stratégique d'affaires chez Somme, firme de sondage. Éric, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous sur cet excellent sondage et au plaisir de se reparler.
Ça m'a fait plaisir,
au
plaisir.
Salut Éric, merci beaucoup. Pascal, en finissant l'émission, s'il y avait 2 ou 3 nouvelles que les gens doivent absolument savoir avant d'écouter Gravel dans le retour, quelles sont-elles?
Ben, c'est sûr que c'est la journée sur cette nouvelle. Un ado de Québec est accusé de terrorisme par la GRC. C'est rare qu'on entend ça. Là, aujourd'hui, on l'a entendu. Donc, c'est un jeune homme qui aurait fait la promotion d'un groupe néo-nazi qui est inscrit par le gouvernement canadien sur sa liste des entités terroristes, devrait comparaître demain au Palais de justice de Québec. C'est un rapport assez troublant là, par rapport à justement les informations que je viens de vous livrer. Également dans l'actualité, on parle de lutte aux violences armées. Il y a 2 hommes liés à Al-Boivin qui ont été arrêtés. On a procédé à l'arrestation de 2 hommes. Ça s'est fait aujourd'hui dans une opération qui a pour but de mettre fin aux activités criminelles reliées au groupe contrôlé par Al-Boivin. Al-Boivin qui est recherché partout dans le Canada, peut-être à l'international. Et c'est un homme qui a ramassé des individus du clan du Pic Turmel, donc de la Blood Family Mafia, pour maintenant faire partie de son propre clan. Fait que tu vois un peu que ça se renforcit à ce niveau. Également, on parlait de véhicules électriques et ça sera l'un des sujets dans le retour aujourd'hui. Mais un mois après avoir annoncé l'arrivée des véhicules chinois au Canada, c'est maintenant que Ottawa et Mike Carney ont confirmé que c'était le retour des subventions pour l'achat d'auto électrique pour 50 000 $ et moins.
Oui, ne manquez pas le retour de Gravel, 14h, notamment 15h10. C'est le lancement officiel du Carnaval de Québec, 15h45. Samuel Tremblay-Michaud qui va parler des subventions aux voitures électriques. Et 16h45, l'urgentologue Élise Berger-Pelletier qui va venir parler des différents types de sevrage. Vous êtes un amateur de sport, Pascal. Demain, 12h45, manquez pas ça. Avec Alex Laramin, on va faire le tour du Super Bowl. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche entre les Seahawks et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre?
Et Pat Bunny aussi.
On va regarder les forces en présence. Pat Bunny à la mi-temps, ça va être très anti-Trump. On a dit qu'on n'enverrait pas la police du ICE. Je le souhaite. Green Day en première partie, Pascal, du Super Bowl. Avant le match, ça va être très anti-Trump aussi. Donc, un Super Bowl qui prend des allures de politique en ces temps très particulier aux États-Unis. On va en parler également demain. Et Alex Laramé va faire un tour de ce qui est à surveiller aux Jeux olympiques d'Italie parce que ça commence officiellement demain avec la cérémonie d'ouverture. Et à compter de lundi, Alex va nous faire des chroniques à chaque jour dans l'émission Nageur sur les Jeux olympiques. Pascal Cévis, je te souhaite un bel après-midi.
À demain.
On se reparle demain. Restez des nôtres. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant.